Patrick, il est dans la surface des TV TCL chez Electrodépôt.
C'est clairement du TCL. 190,5 cm Google TV 4K Ultra HD à seulement 799€. Les prix bas chez Electrodépôt, bien sûr.
Oh, quelle qualité d'image! Oh, il rentre dans la zone avec son caddie!
Oui, il la met sur son caddie et c'est une passe décisive!
Passage en caisse, c'est une TV TCL à seulement 799€ chez Electrodépôt.
Vivez de grands moments chez Electrodépôt en magasin ou sur electrodépôt.fr avec TCL.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Il y a deux risques principaux pour côté Everton. C'est que le
principal, mon cher David.
Principaux, même. Bah, ah, ouais. J'ai le droit au jingle.
Bien sûr.
Ouais, il y a eu des transferts qui ont amené une certaine émulsion. Même s'ils sont remplaçants, même s'ils ne jouent pas beaucoup, les nouveaux joueurs.
C'est même l'émulation, Ricardo.
L'émulation, autant pour moi.
C'est plutôt un joueur qui a égayé sa palette, comme on dit avec Mourinho.
Élargi, peut-être.
Ouais, et élargi. Égayé, ça dit quoi ?
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Salut à tous, c'est Génération After, comme tous les soirs sur RMC quand il n'y a pas le match, de 20h à 22h. Et bonjour à toi qui nous écoute en podcast avec ce soir autour de la table Kevin Diaz. Salut Kevin.
Salut à tous.
Tu fais un tir groupé là, vendredi, samedi, dimanche là.
Bah comme...
t'es le VSD quoi.
Bah comme tous les.
C'est vrai.
Comme tous les.
Pas assez l'after,
comme tous les week-ends depuis à peu près 3 ans. Mais
Ah bon?
Ouais.
D'accord, ok.
Ça. Et d'ailleurs, pendant 2 ans, t'étais avec moi.
C'est vrai, mais c'est, ça remonte ça maintenant là.
Ouais, c'était il y a un an.
Avec toi ce soir, Ricardo Fati. Salut Ricky.
Salut à tous.
Salut Nico.
Et David Guzman. Salut David.
Salut Nico, salut la team.
Banquier, contributeur de la revue de l'After.
Couteau suisse.
Membre éminent du podcast
Le Comex.
Le Comex.
Drôle de dame.
11e art.
Drôle de dame
de tous les championnats du monde.
De l'Angleterre à partir de la Championship.
À partir, tu rigoles ou quoi? Il fait League One, League Two, il fait.
Je dis,
fait
à des partir de la
ah oui, à partir
jusqu'à la nationale quand
t'as fait. Exactement. On est ensemble jusqu'à 22h. Vous le savez, c'est Génération After ce soir au programme Paris champion, Paris vainqueur de la Coupe de France, Paris demi-finaliste de la Ligue des champions. Estimez-vous cette saison très réussie sur le fond, la forme, résultat, évolution, identité de jeu, prise en main de Luis Enrique. Est-ce que ça promet pour la suite? On va en débattre ce soir. Je vous demanderai également quel profil pour remplacer Kylian Mbappé. Luis Enrique a dit qu'il était irremplaçable. En gros, le futur attaquant du Real Madrid. L'OL pouvait-il faire mieux hier soir en finale de Coupe de France? Pierre Sage s'il trompait tactiquement, là aussi on va en débattre avec vous au 32-16 supporters lyonnais. John Textor aussi, on va en parler ce soir parce qu'il a très envie d'acheter un club de première ligue et il scrute l'opportunité Everton. Quelles conséquences pour l'OL si l'Américain arrive à ses fins? On va en parler. 45 ans après, Marseille remporte enfin la Coupe Gambardella. L'OM doit-il en profiter pour faire enfin confiance aux jeunes? Et puis à 21h30, l'AS Monaco fait-il une erreur en laissant filer Wissam Ben Yedder, meilleur buteur du club depuis 5 saisons? Et là aussi, qui pour le remplacer? Enfin, on finira par un avis de David, les playoffs à la française, une injustice pour les clubs de Ligue 2. C'est Génération After et à partir de 22h, l'After avec Gilbert Rébois. Bonsoir Gilbert.
Salut les gars, Stéphane Guy, Daniel Riolo seront là tout à l'heure. Stéphane est inquiet pour Mbappé. Ah oui, il y a l'Euro qui arrive et en fait il dit bah il est nul. Donc qu'est-ce qu'on fait quoi? On va en débattre tout à l'heure. Ensemble, on parlera mercato parisien également, notamment mercato des gardiens de but à venir. Et puis à 23h, dossier Lensois. Ouais, tout le monde veut partir de Lens, vous avez remarqué? Entraîneur, directeur sportif, directeur général, ils veulent tous partir. Ouais.
Non, sans l'implosion à Lens.
C'est un peu louche quand même, cette histoire, non?
Ouais.
On en parlera tout à l'heure.
Un homme d'affaires aussi avisé que Joseph Auguerliens, c'est étonnant.
Exactement, on en reparlera tout à l'heure à 23h. Et puis du foot européen ce soir, le Barça joue, dernier match de Xavi, et puis des matchs en Italie également avec du suspense ce soir. Voilà, plus évidemment le point sur l'affaire des supporters hier. Est-ce qu'il y a du neuf? On le saura tout à l'heure dans l'after. On vous attend au 32-16 pour tous ces sujets. Voilà.
Avec
non,
Daniel,
dimanche soir, sans match. Hein. Ça fait bizarre.
Ça fait rare. C'est vraiment le début de l'été.
En fait, il avait oublié que t'étais là parce qu'il écoute jamais les matchs le dimanche, Nico. Ouais. Donc il était à zapper.
Non mais
je les regarde, mais je les écoute pas.
Voilà.
Grosse erreur.
Bon, après, Messi, il n'y a pas eu de match, mais pour David et moi, je pense qu'il y a eu quelques matchs, hein, Championship,
le
Championnat turc. Donc,
comme une méprise celui-ci, tu crois qu'on n'aime pas le foot, qu'on ne regarde pas un peu
ailleurs? Je suis content que tu m'aies rallié à ta bannière.
Quel snobisme!
Que tu m'aies considéré comme un spécialiste.
Merci. Aujourd'hui, j'ai vu du foot, hein, de Régional 3. J'ai vu un tournoi, j'ai vu une finale de Coupe de France, du
Valais
de
basket.
Il y a toujours du sport le dimanche.
Bon, je rappelle également qu'on va suivre la soirée foot. Il y a des matchs quand même ce soir aussi. Il y a une
la Coupe du Val-de-Marne de basket, je ne m'y attendais pas à celle-là.
Et ouais, mon gars.
À 9h27, je crois qu'il était opérationnel.
Il y a aussi une finale hein, de Coupe du Portugal qu'on va suivre ce soir.
Suis sur Instagram, Gilbert.
Un partout entre le FC Porto et le Sporting Portugal après 77 minutes de jeu. C'est parti pour Génération After, le 32-16 pour nous appeler. YouTube, la chaîne YouTube de l'After, @after-foot pour nous suivre. Vous abonner et commenter dans le chat. Hein, vos commentaires apparaissent dans le mur juste derrière moi dans le studio. C'est parti pour Génération After. Le PSG n'a donc rien laissé sur la scène nationale. En France, trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France, premier triplé ou doublé, c'est selon pour le PSG depuis 2020. Une présence aussi, je le disais, en demi-finale de Ligue des Champions. Luis Enrique fait donc déjà mieux que ses prédécesseurs, hein, Mauricio Pochettino et Christophe Galtier. Faut-il considérer pour autant que le PSG a pleinement réussi sa saison ? La prise en main de Luis Enrique vous a-t-elle convaincu ? Vous nous appelez, supporter parisien, au 32-16, bien sûr. D'abord, écoutons Luis Enrique. Que pense-t-il ? Et surtout du contenu de cette saison parisienne, sa première à Paris. Écoutez-le, c'était hier après la victoire en Coupe de France.
Je crois que c'est le moment de féliciter tous les joueurs, le club et les supporters. L'équipe a été à la hauteur de mes attentes tout au long de la saison. C'est une équipe ambitieuse qui n'a pas peur. Sur cette finale, on a été une grande équipe. Évidemment qu'on aurait aimé jouer une semaine de plus, mais c'est le football. Il est parfois injuste. Je vais souhaiter encore mieux pour l'année prochaine, mais je donne un 10 sur 10 à mes joueurs sur toute la saison.
Bon, c'est un excès de communication aussi, avant les vacances. 10 sur 10 à tous ces joueurs, je pense qu'on pourra en débattre pendant des heures. On n'est pas forcément d'accord.
À son équipe, pas forcément à tous ces joueurs.
Enfin, mais c'est le même débat en fait.
Bah non.
Mais 10 sur 10 à l'équipe du PSG.
Il peut donner 10 sur 10 à son équipe dans une phase de reconstruction, mais c'est pas pour ça qu'il est satisfait de tous les joueurs.
Bon, tout à fait. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Est-ce que tu dirais que cette saison parisienne, la première du Sénéricé, est très réussie ou pas ?
Je dirais pas qu'elle est très réussie, je dirais qu'elle est réussie, comme je disais hier avec Daniel, qui n'était pas d'accord, qui l'a jugée banale. Non, moi, je trouve pas que c'est banal parce que oui, le Paris Saint-Germain a toujours dépensé beaucoup d'argent, mais par contre, ils sont partis sur d'autres profils plus jeunes, des joueurs qui venaient de Francfort pour Kolo Muani, qui venaient du Benfica. Ils ont pas été chercher l'avant-centre du Milan AC qui était Zlatan Ibrahimovic, ils ont pas été chercher Neymar, le meneur de jeu du Barça j'en passe et des meilleurs. Donc à partir du moment où il y a quand même un changement de politique, on sait que tous les ans Nasser nous dit que ça va changer, mais en tout cas l'été dernier ça a changé, c'est factuel. Ils ont laissé partir Messi, ils ont laissé partir Ramos, ils ont laissé partir Neymar, ils ont laissé partir Verratti. Donc oui, en effet, il n'y a aucun doute pour dire que le Paris Saint-Germain est dans une reconstruction et une reconstruction profonde avec un nouveau coach, un coach qui est arrivé et c'est une réussite parce qu'il a réussi à mettre la main sur cet effectif, à devenir le boss du club aujourd'hui et pour la première fois depuis très très longtemps, peut-être dans l'histoire des Qataris, l'entraîneur est le boss du club. Certes, c'est un entraîneur qui peut être clivant, mais c'est un entraîneur qui a eu des résultats et c'est pour ça que je finirai par dire que bien sûr que sportivement, le Paris Saint-Germain est toujours attendu en Ligue des Champions, mais il l'était moins cette année et ils ont fait leur plus beau parcours, puisque si on nommait la Coupe et le Final Four pendant le Covid, ils ont quand même fait une demi-finale de Ligue des Champions. Certes, ils avaient un tableau dégagé, ils n'ont pas su en profiter, mais de l'autre côté, ils ont gagné la Ligue 1 avec plus de 10 points d'avance, et surtout, ils ont gagné la Coupe de France. Donc pour moi, oui, la saison du Paris Saint-Germain, elle n'est pas grandiose, mais elle est réussie.
David, réussie, mais pas marquante. C'est-à-dire que réussie, je suis d'accord avec Kevin. Deux titres, un parcours en Coupe de France qui est pas facile.
Donc t'es d'accord avec Daniel, réussi mais banal ou banal
non,
mais
non,
réussi.
Pas, non, réussi
mais pas marquante. Quasiment des standards parisiens depuis
l'arrivée des Qataris. Réussi mais pas marquante, dans le sens où j'ai du mal à me rappeler d'une prestation marquante dans la qualité et dans le contenu pendant 90 minutes du PSG. Hier, à la fin de la rencontre, encore plus à la mi-temps, je me suis dit tiens. J'ai beaucoup vu le PSG cette saison. Je ne les ai très rarement vus à ce niveau. Et pourtant, comptablement, ils sont exactement dans la lignée de leurs prédécesseurs, à la moyenne de points près. Luis Enrique, c'est 2,24 points par match. Galtier, 2,24. Et Pochettino, 2,26. Donc, en fait, comptablement, ils sont dans la lignée. Mais j'ai pas, il y a eu, bien évidemment, il y a des circonstances atténuantes. Il y a des nouveaux joueurs, un nouveau style. Mais j'ai du mal à me rappeler d'une prestation. Peut-être les deux prestations contre Lyon. Lyon est l'adversaire qui s'y est parfaitement au PSG. Peut-être l'aller contre Marseille, mais c'était un Marseille coaché par Pancho Abbandonado qui n'était pas non plus dans une spirale positive. Mais j'ai du mal, même en Ligue des Champions, à me rappeler d'une prestation marquante. Donc réussi, oui. Marquant, on va attendre.
Ricardo.
Mais est-ce qu'on doit s'attendre à une saison marquante de la part du PSG ? On fait qu'elle soit efficace. Moi, je pense que la saison est réussie, certes.
Alors, il y a cet accro en demi-finale qui fait que, vu les circonstances, on peut être que déçu de la prestation parisienne. Mais dans les faits, oui, elle est réussie. Hein. Elle est réussie. Hein les titres sont là, les prestations, on va dire, les résultats sont là. Après, moi, ce que je veux souligner, c'est que c'est une décision très, très particulière hein, pour le PSG. Hein. Vraiment, ils sont en phase de transition. Ils vont gérer un après Mbappé. Et je pense que Luis Enrique est l'entraîneur idéal pour gérer cette transition après Mbappé. Et je pense qu'il l'a plutôt bien fait. Il a commencé à le mettre sur le banc. Il a commencé à mettre en place un système de jeu sans Kylian. Donc, je pense que, voilà, avec Luis Enrique, c'est vraiment la bonne formule qu'il faut pour le PSG post-Mbappé. Bon, pour moi, c'est réussi, mais elle est surtout encourageante cette saison. Pour moi, elle est réussie et encourageante.
Encourageante en vue de la saison prochaine hein, et ouais. Du projet à moyen terme que porte Luis Enrique. On va en débattre avec vous, 32-16 également, supporters parisiens. N'hésitez pas à nous appeler pour juger cette saison du PSG. Si pour vous, il y a quelques zones d'ombre quand même et surtout la suite, comment vous l'imaginez? Est-ce que vous avez déjà vu, comme le disait Kevin ou Ricardo aussi à l'instant, se dessiner une vraie identité de jeu? En tout cas, une évolution. Ce qu'on voit beaucoup sur le chat, là, c'est enfin, on a une équipe. Voilà, on a un collectif. Ce qui n'était pas commun au PSG depuis plusieurs
saisons. Au-delà de l'évolution, il y a une révolution. Tu vois, et pour moi, c'est le plus important. Mais après, est-ce que ça va être mieux ou pas, on le découvrira
Ça dépend du mercato aussi.
Mais en tout cas, la révolution, elle est là.
Reste avec nous dans un instant, on poursuit Génération After avec Kevin Diaz, Ricardo Fati, David Guzman. Vous nous appelez au 32-16 pour en parler. Vous écoutez RMC 20h13. A tout de suite.
La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique!
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique! Voir conditions et règlements du jeu sur le kioskapizza.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
RMC 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Kevin Diaz, avec Ricardo Patti et David Guzman, on est ensemble jusqu'à 22h au programme des Générations After, notamment Lyon, Marseille, après la victoire en Coupe Gambardella. Est-ce un espoir pour la jeunesse marseillaise? Tiens, Romain Canuti sera avec nous, hein, notre ami de l'After et journaliste au Fossé. Hein. D'abord Paris, on a commencé avec le PSG qui fait donc un doublé. Du mal à dire triplé, moi. Quand on parle trophée des champions, même si Ricardo, il va dire, oh, mais si, non, tout
non.
Se prend,
c'est un non,
trophée.
Non, ah non, par saison, pour moi,
90% des joueurs me disent, faut respecter les trophées.
Non, mais pas le, tu peux pas dire, t'as fait un triplé.
Il faut le gagner, ce match, ils l'ont gagné, ils ont le mérite de jouer ce trophée,
doublé,
ils l'ont gagné.
On reste au doublé.
D'accord,
doublé.
On a gagné un match amical de pré-saison qui s'appelle le trophée des champions, voilà.
Saison réussie ou pas, beaucoup d'avis divergents par rapport au vôtre, vous êtes quasiment tous d'accord autour de la table. Vous dites que la saison est réussie, pas marquante selon David, mais réussie. Beaucoup d'avis divergents. Schottheimer sur le chat de la chaîne YouTube nous dit le PSG n'est pas monté en puissance cette année, ce qui laisse des doutes sur la saison prochaine qui se veut meilleur selon Luis Enrique. On va en débattre. D'abord, j'accueille Mickaël au 32-16. Salut Mickaël.
Oui.
Supporter du PSG, bienvenue dans Génération After.
Bah, merci de m'accueillir, c'est très gentil. Salut, évidemment, salut. Supporter du PSG.
Alors, ton avis sur cette saison-là, comment tu l'as vécu en termes d'émotion, en termes d'évolution aussi?
Bah, en termes d'émotion, on en a eu. C'est sûr que c'est une saison, on a quand même vécu. Bah déjà au plan national, je suis assez d'accord sur le côté réussi de la saison au plan national, parce que je trouve que moi je banalise pas la Coupe de France avec le format de coupe que c'est. Je pense que la gagner est quand même important et je trouve que c'est très bien de la gagner, le championnat oui. Aussi. Maintenant sur la scène européenne, pour moi il y a quand même un échec. Cette double confrontation contre Dortmund, elle passe pas. D'avoir été éliminé. Pourquoi? Enfin, à la limite, c'est le football et Dortmund est quand même une grande équipe, mais la façon dont on a été éliminé, pour moi, ça ne passe toujours pas. Je pense qu'il y avait moyen d'obtenir cette finale de Ligue des Champions. Donc, la saison réussie, oui, sur le plan national, sur le plan européen. Pour moi, non. Et faut pas oublier que même sur les phases de poule de la Ligue des Champions, on termine avec 8 points. Lens a fini aussi avec 8 points, n'est pas qualifié. Donc, on passe de justesse. Après, il y a un meilleur tirage sur la deuxième partie, sur le tableau. C'est vrai. Moi, je le reconnais que éviter Manchester City, éviter le Bayern, éviter le Real, c'est quand même mieux. Et je pense que c'est un échec de ne pas aller en finale.
Tu peux même rajouter Arsenal.
Oui, je peux rajouter même Arsenal, bien sûr. Ouais.
Non, mais après, ce que tu dis, c'est juste, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une différence entre performance et surperformance. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a réussi sa saison parce qu'ils ont performé de façon objective et de façon cohérente.
Ouais.
Mais s'ils avaient gagné la Ligue des Champions, messieurs, en ayant 8 points, en ayant 7 effectifs, en ayant Warren Zaïre-Emery, en ayant Vitinha, moi j'aime bien, mais en ayant Ruiz, aucun joueur du Paris Saint-Germain ne sont titulaires quasiment de l'autre côté du tableau, en fait, dans les 4 équipes. Je vais pas dire aucun parce que j'exagère, il y a Mbappé, il y a Dembélé qui peut jouer, mais je veux dire, il n'y a pas plus de 4-5 joueurs qui sont titulaires dans les autres équipes qui étaient dans l'autre tableau. Donc attention, si le Paris Saint-Germain aurait gagné la Ligue des Champions, ça aurait été historique, ça aurait été un exploit avec cette équipe. Comme si Dortmund gagne la Ligue des Champions, c'est un exploit. Mais ils ont quand même fini devant le Paris Saint-Germain dans leur groupe. Donc en fait, le PSG n'était même pas favori contre Dortmund si tu regardes les performances en Ligue des Champions. Oui, attends, en Ligue des Champions.
Juste pas une performance, on regarde l'histoire, la grande histoire
de
la Ligue
des Champions. Je parle en Ligue des Champions sur la saison.
Sur la saison.
Sur la saison là, en fait. Donc, en tout cas, dans leur groupe, même si le PSG a battu Dortmund, le PSG a fini derrière Dortmund. Donc, en tout cas, le Paris Saint-Germain a très bien performé et a réussi sa saison en gagnant les deux titres nationaux et en allant en demi-finale de Coupe d'Europe. Peu importe qui ils ont rencontré, ils ont été en demi-finale. Et déjà, c'est une surperformance par rapport à l'an dernier où ils sont arrêtés en huitième. Donc, il y a un moment, je vais pas vous ressortir la phrase de Antetokounmpo, mais que ce soit dans le foot ou dans n'importe quel métier, pas parce que tu perds que c'est un échec. Ils ont perdu, mais c'est pas forcément.
Il y a surtout l'assimilation d'un nouveau style de jeu. Ils sont passés de Christophe Galtier à Luis Enrique et ça prend énormément de temps les principes de Luis Enrique à assimiler. C'est-à-dire que on prend trois exemples en première ligue d'entraîneurs qui ont une patte très marquée, qui ont fait une révolution tactique, besoin de faire une révolution tactique. Et la première saison, elle était très, très décevante. Ouais. Arteta finit huitième. Klopp finit quatrième. Guardiola finit quatrième la première saison. À 15 points de Leicester. Donc, et passer de Christophe Galtier à Luis Enrique, c'est une révolution absolument totale. Donc, en fait, je pense que cette performance, on doit la remettre dans le contexte, non seulement d'un nouvel effectif, parce qu'hier, qui rentre sur le terrain, il y a trois titulaires, plus de nouveaux joueurs qui rentrent sur le terrain contre Lyon, et surtout une révolution complètement totale. On a complètement remodelé, en fait, le principe, le logiciel des joueurs. Et ça prend du temps. Et je trouve que la vraie réussite, au-delà de l'aspect comptable, au-delà de la demi-finale, elle est là. Il a réussi à emmener, à convaincre tout le monde.
Alors, on saura, Ricardo, si la saison est réussie, en fonction de la saison prochaine également. En sachant s'il y a une réelle continuité dans la première pierre qu'a posé Luis Enrique, dans l'édifice parisien qui est censé grandir dès la saison prochaine. T'es d'accord, Mickaël, ou pas?
Bah oui, je suis d'accord que c'est sûr que la saison prochaine va être importante, mais j'aimerais quand même dire quelque chose. Moi, j'ai vu dans le match hier un peu nos déboires en Ligue des Champions, c'est-à-dire qu'hier on fait une grande première mi-temps avec énormément d'occasions, on marque sur deux buts où moi je trouve quand même il y a deux grosses erreurs défensives côté lyonnais, mais sinon on multiplie les occasions et on concrétise pas. Et à Dortmund, c'est ce qui nous a manqué. Moi, j'ai vu dans le match d'hier un peu ce qu'on a vu en Europe. Et ce que j'attends de plus, parce que là où je suis d'accord, c'est que cette année, on a créé vraiment un effectif, on a un groupe, on a un jeu. Et c'est vrai qu'en un an, il a fait jouer une équipe qui est solidaire les uns pour les autres. Je sais pas l'année prochaine avec le recrutement qui va être aussi important. On attend de voir l'année prochaine, mais j'attends un peu plus aussi devant le but d'être un peu plus décisif.
Merci Mickaël d'être venu au 32-16. Très bonne Mickaël. Soirée à toi. À très vite sur RMC. C'est la journée qu'on écoute également Luis Enrique qui parlait de Kylian Mbappé forcément hier, dernière collaboration avec son numéro 9. Écoutez ce qu'il en pense. Est-il remplaçable, Luis Enrique?
Yo creo que
ça a été une chance de l'entraîner cette saison. Elle a été difficile pour lui, c'est dur de dire au revoir. Il a toujours été prêt à aider son équipe. C'est un joueur différent et qu'on ne remplace pas. C'est l'équipe qui va le remplacer. Peut-être qu'il faudra le remplacer par 4, 5, 6 joueurs. Mais le club a toujours cette ambition de tout gagner. On va essayer d'obtenir plus. On veut marquer l'histoire et cette Champions League, on la gagnera. Dans le futur, oui, on la gagnera.
Puede ser que tarde años, pero ganará Champions en el futuro sin ninguna duda.
Bon, la gagner sans Mbappé peut-être. C'est pour ça qu'on va suivre avec attention le prochain mercato. Ouais. C'est un débat qu'on va mener dans les prochaines semaines, bien sûr, avec l'actu mercato. Mais Ricardo, comment on construit sans Mbappé? Comment on remplace Mbappé, si c'est une question?
Non, mais comme il l'a bien dit, Luis Enrique, il est irremplaçable d'un point de vue vraiment technico-tactique. C'est un joueur qui amène des différences déjà, bien sûr. C'est un mec qui étire les lignes, qui focalise l'attention. Donc forcément, si tu perds un joueur comme lui, un joueur de sa prestance, forcément, il va falloir remettre en place un nouveau projet de jeu, un nouveau plan de jeu. Et c'est justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que Luis Enrique commence à faire progressivement. Il a commencé à le mettre en place avec les joueurs qu'il a sélectionnés, avec le style de jeu qu'il a mis, avec quelques matchs sans Kylian, justement. Ça se voit qu'il propose vraiment des choses pour l'année prochaine. Il pose des pierres, il pose des bases pour la prochaine saison. Et c'est vraiment intéressant parce que Luis Enrique, il est conscient du manque que Kylian va apporter, mais il est prêt pour ça. Il est prêt. Il a dit, hein, on va le remplacer par 2, 3, 4 joueurs. Bon, je pense pas qu'on aura besoin d'autant, mais des joueurs qui vont vraiment entrer dans son puzzle.
Il a été jusqu'à 6.
Ouais, il a été jusqu'à 6. Donc, ouais. Après,
c'est un message qui fait passer, à mon avis.
Ouais, mais après, donc,
il faut 6 joueurs pour remplacer un seul homme.
Je pense qu'au niveau budget, je pense que oui, qu'il y a niveau salaire, niveau budget, il est équivalent aussi à 6 joueurs aussi. Mais après, oui, il faudra justement trouver ces bons joueurs qui vont correspondre au style de jeu de Luis Enrique. Mais en tout cas, il m'a l'air. Il n'est pas soulagé, mais il m'a l'air quand même confiant pour la suite, Luis Enrique.
Il est soulagé. Je pense que c'est un problème en moins à régler. Footballistiquement, il n'est pas soulagé, mais politiquement, il est clairement soulagé. Sûr, c'est-à-dire que depuis le début, on lui a quand même mis l'épine Mbappé dans le pied. C'est-à-dire que lui, il voulait le prendre en tournée. Il vient pas en tournée. Il est dans le loft. Ouais. Après, il l'utilise. Il ne sait pas s'il peut l'utiliser. Une fois qu'il part, il l'utilise un peu moins. Donc non. Et sur le problème Mbappé, c'est aussi un problème comptable. Il y a 37 buts et 14 passes de moyenne à aller chercher. Et aller ça, c'est sa moyenne sur ces 7 dernières années. Après, il y a différentes façons. Quand Aubameyang a un peu été mis de côté, on a pris Gabriel Jesus 6 mois plus tard, mais après, il y a d'autres joueurs qui ont dû step up et qui ont dû augmenter leur production. Il y a Saka qui est monté d'un cran. Ouais. Et on a demandé à Saka de jouer milieu gauche et de contribuer aussi offensivement. On a fait confiance à Martinelli, à Odegaard. Et pareil, quand Dortmund a perdu Haaland est parti, Bellingham, il est passé de 6 à 15 buts. Après, il y a eu Adeyemi qui a été recruté pour combler ça. Il y a eu Sébastien Haller. Malheureusement, il a eu son problème médical. Il n'y a pas une bonne façon, mais c'est vrai que c'est la meilleure façon. Elle est collective et c'est de demander aussi aux joueurs ici de contribuer plus. Dembélé, 6 buts, c'est pas suffisant. Voilà. Le plus gros créateur d'occasion du championnat, c'est le meilleur passeur, mais c'est pas suffisant.
Alors attention, Kevin. Parce que si tu te bases sur Ousmane Dembélé pour aller te marquer les buts, je pense que tu vas te tromper.
Et plus que 6, pour le coup.
Oui, plus que 6, mais je suis pas sûr qu'il en ait.
Non, après, on va pas attendre de Dembélé qui soit le meilleur buteur de l'équipe, mais vraiment qu'il augmente sa production en termes de statistiques. Ça, c'est clair et net.
Je suis pas sûr qu'il est capable d'augmenter sa production. Mais en tout cas, c'est sûr que, une fois qu'on a dit ce qu'on a dit pour faire le bilan du Paris Saint-Germain, faudra bien sûr très, très vite se projeter sur la saison prochaine parce que perdre Kylian Mbappé, c'est une chose, mais il va falloir avoir un mercato de toute autre facture que celui qui a été l'an dernier, parce que.
C'est ça l'échec du PSG cette saison.
Tu considères qu'il a été raté le mercato, Kevin?
Pas qu'il a été raté.
Il a été mal ciblé un peu.
Après, on sait comment sont les mercatos. Hein.
Il n'a pas été ciblé, surtout.
C'est pas facile.
En gros, t'as quoi? T'as deux grosses satisfactions, qui sont Dembélé et Barcola.
Oui.
C'est ça, en réalité.
Qui correspondent.
À des degrés différents,
qui correspondent le plus à ce que Luis Enrique veut mettre en place.
Exactement.
Tout simplement.
Sinon le reste, les amis, Vitinha était arrivé avant. C'est la grosse satisfaction d'ailleurs. Luis Enrique l'a dit hier.
Skriniar,
c'est son meilleur joueur cette saison, c'est ce qu'il a dit.
Ouais. D'accord.
Skriniar, c'est un échec.
C'est pas du tout adapté à Luis Enrique.
Ugarte est très mitigé.
Ugarte, c'est un échec. Moi, j'attends de voir encore Ugarte. Hein,
Ugarte, c'est. Non, mais après, de toute façon, on le sait que dans le mercato.
Kanguini, c'est un genre de complément
qui est complètement Luis Enrique compatible. Ouais. Il vient d'Espagne, c'est un joueur technique qui est bon dans les petits espaces.
Un joueur à sa main, qui écoute.
Voilà,
Asensio décevant aussi, pour le coup.
Asensio décevant, mais est-ce qu'on croyait vraiment que Asensio, l'éternel remplaçant au Real,
pendant la saison,
allait devenir.
On a commencé à y croire à un moment quand il a une bonne période. Hein.
Ouais, après, David, tu parles.
Attention, c'est 10 millions de salaires par an. Hein.
Ouais. Après, tu parles de productivité, tu parles de step-up de certains joueurs. Bah, c'est là que Gonzalo Ramos sera important. Et c'est là, on verra si vraiment il est fait pour.
Moi, j'ai absolument aucun doute sur Gonzalo Ramos. Sur ses qualités, en tout cas. Okay. Sur son utilisation, un peu plus, mais sur ses qualités, j'ai absolument aucun doute. D'ailleurs, je le mets absolument pas dans les flops.
Tu vois capable de produire 20 buts.
Toute compétition confondue, absolument.
Il l'a déjà fait, de toute façon. Donc, c'est sûr que Gonzalo Ramos. Après, le problème qu'on a avec Gonzalo Ramos, c'est qu'on a l'impression que Luis Enrique apprécie beaucoup son profil, alors que pour le coup, c'est vraiment un attaquant qui joue au Benfica. Ça n'est que le Benfica, mais qui joue au Benfica face à des blocs bas. Et qui était quand même assez à l'aise pour se créer des occasions et pour les mettre au fond. Avec le Portugal, pareil. On l'a vu notamment en huitième de finale de Coupe du Monde. Donc, il n'y a pas que des ratés. Il n'y a jamais que des ratés quant à Luis Campos à la tête d'un mercato. Maintenant, il va falloir peut-être mieux cibler. Je ne sais pas si Luis Campos est en étroite relation avec Luis Enrique, mais en tout cas, les deux Luis, il va falloir qu'ils réussissent leur mercato.
Pause. Dans un instant, Tariq sera avec nous, 32-16. Il y a des appels, bien sûr, pour évoquer l'action du PSG, satisfaction, déception. Vous pouvez nous rejoindre également dans Génération After. Merci d'être avec nous. On revient dans quelques secondes sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin. Avec Kevin Diaz, avec Ricardo Patti, David Guzman, c'est Génération After. On parle du PSG, on parlera dans un instant de Lyon, bien sûr, de l'OM aussi au programme. N'hésitez pas à nous appeler au 32-16, supporter lyonnais, supporter marseillais également. Tiens, sur le chat de la chaîne YouTube, il y a Cred qui nous dit After plus Roland Garros, quoi de mieux pour passer une très bonne soirée. Et bien justement, on va à Roland Garros, retrouver la voix éternelle du tennis sur RMC. Eric Salio est avec nous. Salut Eric!
Salut Nico, salut à tous.
Que d'émotion t'as vécu aujourd'hui, toi, mon Dieu. Richie est passé, Eric. C'est incroyable. Richard Gasquet qualifié pour le deuxième tour. Il y a trois Français sur le court actuellement.
Ouais, il y a trois Français sur le court. Il y a un match assez électrique, enfin qui s'annonce assez électrique, entre Corentin Moutet et le Chilien Nicolas Jarry. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont joués en début d'année à Santiago et ça avait été très chaud, même hostile pour le Parisien. Donc il a préparé ses supporters, il a demandé un soutien indéfectible et il y a eu des sifflets à l'entrée du court de Jarry. Donc 2-1 pour Corentin Moutet, ça s'annonce sympa comme match. Il y a aussi Terence Atman qui joue son premier Roland Garros, il a une wildcard. Il mène 4-1 face à l'Autrichien Hoffner et on a Harold Maillot qui a tiré une tête de série, Sébastien Corda, 1-7-0 pour l'Américain et 5 partout dans le deuxième. Et puis depuis 2 minutes, la night session, la première night session de l'histoire, en dimanche bien sûr, premier dimanche, a débuté entre les
Islanders,
les deux ancêtres, Stan Wawrinka et Andy Murray.
Exactement Eric, merci à toi.
Amazon vous livre Roland Garros. Dès le 26 mai, profitez des 11 matchs du soir sur Prime Video. Abonnement payant obligatoire, voire tarif et conditions sur amazon.fr/prime.
Tariq, supporter du PSG, est avec nous. Salut Tariq.
Salut tout le monde. Salut,
bienvenue sur RMC, habitué de l'after et d'une narration after à t'accueillir. Voilà, ta saison est terminée Tariq. Fini. Un doublé, le championnat, la Coupe de France, une demi-ligue des champions. Est-ce qu'à l'arrivée, tu nous as beaucoup appelé cette saison, tu es pleinement satisfait de ce que tu as vu?
Non, pleinement satisfait, non, parce que il reste la frustration de la Ligue des Champions. C'est même pas la frustration, parce que sur les deux matchs, en fait, je suis plus énervé que frustré, parce qu'on a rien proposé personnellement, je pense, contre Dortmund, et aussi par rapport à l'adversaire. On s'était un petit peu dit que c'était cette année ou jamais, le tableau était assez ouvert, et moi je reste toujours assez énervé par rapport à cette demi-finale de Ligue des Champions. Mais en tout cas, la saison, je la trouve très encourageante. Je la trouve encourageante parce que s'il y a un truc qu'on peut ressortir, c'est le collectif. On a retrouvé un collectif par rapport à toutes ces dernières saisons. Et on va dire encourageante pour cette saison. Et j'attends vraiment avec impatience la saison prochaine et surtout le mercato qu'il va y avoir.
Non mais ça c'est l'enjeu effectivement.
Ouais, t'as tout dit Tariq.
Là tu vas prendre quasiment, tu me dis si je me trompe David, hein, 200 millions d'euros d'entrée entre le chèque CVC que le PSG va toucher,
la grosse partie,
plus de 114 millions d'euros, ouais. Plus les gains Ligue des Champions, parcours Ligue des Champions, plus la réduction drastique de la masse salariale que tu évoquais à l'instant à Ricardo, moins 78 millions d'euros bruts par an.
Les droits européens augmentent de 400 millions d'euros l'année prochaine avec la nouvelle formule. On a deux matchs en plus, donc il y a 400 millions d'euros à se partager. Pas pour le PSG, mais bien évidemment, ils vont en profiter. Plus les droits internationaux de la Ligue 1 qui leur seront très, très favorables.
Bien sûr, majoritairement. Donc le PSG n'a jamais attendu d'avoir de telles entrées d'argent pour investir massivement chaque été. Là, a priori, on part sur un gros mercato côté parisien. Comme Luis Enrique l'a déjà dit, il en a fait une allusion, minimum 6 joueurs déjà qui vont arriver cet été, ce sera plus certainement, puis il y a ceux qui partiront aussi bien sûr. Que faut-il attendre du mercato parisien cet été? T'attends quoi toi mon cher Tariq justement?
J'attends déjà en fait de réajuster. Je pense qu'il y a vraiment eu des erreurs lors du dernier mercato. Je pense qu'il va falloir se séparer de certains joueurs qui rentrent pas du tout dans les plans de Luis Enrique.
Colomoini, t'arrêtes Colomoini déjà ou pas? Tu maintiens l'espoir?
Moi vraiment non. Je pense que ça a été une erreur. C'est pas un mauvais joueur, mais ça a été une erreur sur le profil du joueur et ça malheureusement ça nous a donné raison cette saison. Je pense que Gonzalo Ramos techniquement et par rapport au profil, il a une grande longueur d'avance sur Colomoini. Mais malheureusement, je pense pas que ça va prendre à Paris. La même chose pour Ugarte, la même chose pour Skriniar. Et je pense qu'au niveau des départs, il va y avoir certaines choses à faire.
Ouais. Après oui, t'as tout dit Tariq. Je pense qu'il faudra bien cibler. Ce sera un mercato super important. Après, moi, je pense qu'il y a quand même quelques joueurs qui ont été recrutés la saison dernière, qui n'ont pas donné satisfaction, qu'on devrait revoir. Je pense notamment à Ugarte. S'il n'a pas de bande sortie, moi, je pense qu'il faudrait peut-être
lui laisser encore sa chance au milieu de terrain. On a parlé de Gonzalo déjà, Gonzalo Ramos. Donc c'est des joueurs qu'il faudrait.
Peut-être ces joueurs qui vont progresser aussi. Barcola, va forcément évoluer.
Il est joueur, sa progression.
Elle est figurante. Zaire Emery aussi qu'on a un peu perdu. Je suis un peu excessif là sur les derniers mois.
Non, tu es pas excessif.
Lui aussi va progresser certainement au sortir de l'Euro également.
Légitime, jouer. À très haut niveau à cet âge-là, c'est sûr qu'à un moment donné ça casse. Et je pense que Kevin pourra le confirmer.
Le chantier, c'est en défense centrale, les amis, surtout.
C'est en défense, c'est exactement Kevin. Ça.
Ouais, bah moi j'avoue que sur l'idée, même si je suis pas l'aficionados le plus
assidu,
merci de la Serie A et notamment de l'Inter. J'ai un peu plus regardé cette année, mais l'année dernière avec Skriniar, bon, je vois quand même un mec qui est titulaire, qui a une petite blessure au dos. Je me dis bon, le mec il est libre, allez pourquoi pas. Par contre, du coup, eux qui ont dû bien le suivre avant de faire ce choix, par contre, grosse erreur quand même, parce que c'est un mec, c'est pas une caravane qu'il a au dos, hein. C'est quand même très très compliqué aujourd'hui au Paris Saint-Germain.
D'accord, c'est un mec qui arrive libre, hein, qui aurait pu arriver 6 mois avant pour 80 millions d'euros, enfin, c'est ce que vous voulez.
Oui, non,
donc au final, t'en sors pas si mal. Hein.
T'en sors pas si mal, mais je pense que la prime à la signature, elle devait être quand même conséquente.
Et le salaire aussi.
Hein. Donc le salaire également. Moi, j'avais dit aussi que Asensio, oui, bonne idée, mais à 10 millions d'euros par an. Parce qu'on me dit oui c'est libre, mais attends, mais tu te rends compte, 10 millions d'euros, le mec il signe 5 ans, ça veut dire que déjà tu lui donnes 50 millions déjà, donc déjà c'est énorme.
Puis il est plus enclin à partir par la suite.
Non, mais le vrai problème c'est ça, c'est s'en séparer. D'ailleurs c'était le problème du PSG absolument tout le temps. Ouais, le nombre de joueurs qui sont allés.
Marseille à une moindre échelle, ou Lyon ont les mêmes problèmes. Le problème c'est que tu es censé surpayer un joueur pour qu'il accepte de venir en Ligue 1, même si certains ne sont pas d'accord avec ça, mais c'est quand même pas loin d'être réel, que ce soit à Marseille ou à Paris.
Quand on va parler de l'égré salarial Marseille plus tard,
ouais, mais non, franchement c'est je vais pas dire que c'est ridicule, hein, mais c'est quand même douloureux en tout cas. Et ensuite, même un gars que j'adore comme Danilo, il y a un moment peut-être qu'il va avoir fait son temps aussi au Paris Saint-Germain. Donc il y a quand même beaucoup de points d'interrogation. Est-ce que donc Mukiele, ça va partir. Hakimi, est-ce que ça suffit, sachant que
très bon sujet, Hakimi,
il est pas toujours en odeur de santé avec Luis Enrique. À gauche. Qui est-ce que tu as derrière Nuno Mendes, sachant que maintenant ça va commencer à être compliqué quand même, le genou d'un joueur que j'apprécie beaucoup et je lui souhaite Hernandez, bon rétablissement. Ouais. Mais tu te fais deux fois les croisés en moins de 15 mois. C'est
et Kevin,
il
y a le dossier gardien aussi, parce qu'on l'a pris gardien. Aujourd'hui. Le PSG est en passe de recruter un gardien, Matvei Safonov, le gardien du FC Krasnodar en Russie, 25 ans, qui s'est récemment imposé en équipe nationale russe. Hein, je crois sur les 7 derniers matchs de l'équipe nationale, 5 titularisations pour lui, 1m92. Évidemment, un profil moderne, gardien grand, beaucoup d'envergure. Il arriverait pour être la doublure de Gianluigi Donnarumma, tout en étant capable de le mettre en concurrence, de le sortir un petit peu d'une zone de confort, le gardien international italien.
J'ai pas entendu que Ederson allait quitter Manchester City aujourd'hui.
Si, peut-être Alisson aussi, peut-être, mais je pense qu'Ortega, en fait, c'est désigné, enfin, le remplaçant, je pense que
oui, non, mais est-ce qu'on va entendre une situation Ederson, du coup,
là, franchement, on va entendre une situation peut-être, il proche d'arriver, une situation un peu bâtarde, encore une fois, où t'as deux gars qui seront mis des égal à égal.
Ça n'a jamais fonctionné.
Tu n'auras plus forcément le numéro 1. Il y aura toujours le spectre du numéro 1 bis qui va concurrencer.
Ça n'a jamais fonctionné. Regarde comment ça a contaminé David Raya, Aaron Ramsdale à l'international. Une concurrence où Raya a été mis au forceps devant Ramsdale parce qu'il était censé être meilleur au pied. Certes, il fait le plus grand nombre de clean sheets en première ligue, mais il a convaincu absolument personne. Ouais. Surtout pas dans les gros matchs. Et là, on recrute Arnaud Temast, qui, quand il a joué, a été très correct, qui a un jeu au pied qui est loué par Luis Enrique, et c'est ce que Luis Enrique demande. Et moi, je me suis un peu renseigné cet après-midi sur le profil du gardien, notamment sur un compte Twitter foot russe qu'il a suivi, qui dit que le point faible quasiment de ce gardien, c'est son jeu au pied. En tout cas, c'est pas son point fort.
Exactement.
Donc c'est quand même relativement surprenant, puisque Donnarumma, hors le jeu aérien, on lui reproche de pas être à l'aise au pied. Donc tu vas mettre 20 millions sur un gardien qui a à peu près les mêmes caractéristiques que Donnarumma, alors que t'as Temas qui est un gardien complètement différent et très bon au pied. Je suis assez surpris, moi.
Mais le problème, c'est que Temas, il est petit pour un gardien. Ça reste une limite dans le foot moderne de faire un peu plus d'1m80. L'envergure que t'as dans les cages, ça reste une limite.
Non, mais que Temas soit un deuxième ou un troisième gardien, c'est pas le débat.
pas. Le truc, c'est que je viens de dire que peut-être Ederson, peut-être Alisson vont être sur le marché des gardiens. Ouais. Dans ce cas-là, attends.
Ter Stegen aussi peut-être.
Ter Stegen peut-être aussi.
Oblak a dit qu'il voulait peut-être partir.
Oblak, donc t'es quand même en train de parler du top 10 des gardiens mondiaux.
Si tu fais
top
5, tu fais un de ces choix-là, ça veut dire que Donnarumma.
Je suis pas sûr que Mike Mignon, il va rester indéfiniment au Milan non plus, même si lui, c'est un joueur qui malheureusement sur les derniers mois a été assez souvent blessé. Mais voilà, il y a quand même aujourd'hui beaucoup de gardiens.
Oui, mais c'est la question de Donnarumma. Donnarumma, il est là, Kevin, en fait. Si tu veux venir
un cadeau,
tu
les cites là. J'ai entendu ça hier soir. Mais
si tu veux venir un cadeau, comme tu les cites là, ça veut dire que tu entérines le fait que Donnarumma n'est plus ton gardien numéro 1.
Donnarumma, après, c'est toujours pareil. Encore une fois, tu découvres Donnarumma quand il a. C'est ça le problème du recrutement.
C'était une opportunité, Donnarumma.
Oui, mais attention, c'est le problème du recrutement. Et d'ailleurs, peu importe le niveau. Quand est-ce que tu découvres vraiment le joueur? C'est au quotidien. Tu peux le suivre dans son club. T'es pas là à l'entraînement tous les jours. Tu peux voir les matchs comme ça, mais tu le suis pas dans son quotidien, dans la performance au jour le jour, son accompagnement, tout ce qu'il met en place avant, après les entraînements, avant, après les matchs. Et donc aujourd'hui, c'est très difficile de juger un gardien même quand il est libre. Là, c'était une belle opportunité de marché, certes, mais je pense que cette belle opportunité de marché, comme toutes les opportunités de marché, et David Luizman sera d'accord avec moi, il y a un moment, il faut aussi savoir acheter ou savoir prendre. Oui, mais faire la bonne affaire, il faut surtout savoir le vendre.
Tariq, pour finir, vas-y.
C'est le bon moment pour le vendre.
Par rapport à Donnarumma, c'est bien sûr, moi je pense qu'il faut le vendre, mais ça, c'est quand même grave venant du Paris Saint-Germain. Il était quand même titulaire dans, même si c'était plus le grand Milan, on savait tous tout ce qu'il
faisait. Surtout le meilleur gardien de l'Euro qui sortait d'une prestation absolument incroyable à Wembley pour faire gagner son équipe.
Oui, mais ça restait sur une petite compétition, ça restait sur une compétition. Courte durée. Mais tous les soucis qu'il a eu au Paris Saint-Germain, ils étaient déjà visibles à l'AC Milan, que ce soit sur ses sorties aériennes, sur ses problèmes de confiance, dès qu'il pouvait te faire une petite boulette, et tu le perdais pour quelques matchs. Et moi, je me dis tout ça pour ça, en fait. On a enterré un Keylor Navas qui était incritiquable au Paris Saint-Germain, qui pour moi, dans l'histoire du PSG, est derrière Bernard Lama sans problème.
T'abuses quand même un peu, mais.
Pourquoi ?
Non, mais quand même, Keylor Navas, tu peux pas me dire qu'il a marqué l'histoire du Paris Saint-Germain.
Keylor Navas, il arrive au Paris Saint-Germain, tu fais tes deux meilleurs résultats de ton histoire de l'RQS. Il te fait des matchs exceptionnels, il te qualifie pour une finale de Ligue des Champions, et il t'amène en demi-finale avec, moi j'ai juste en image le match retour contre le Barça, t'as l'impression dans les cages, c'est Sangoku. Non, il a été exceptionnel pour ces deux ans, et tu lui amènes un Donnarumma dans les pattes, et tu le perds. Et comme si vous l'avez si bien dit, et ben la concurrence à ce poste-là, ça reste limité. Mais pour moi, si on se sépare de Donnarumma, et je pense qu'on doit se séparer de Donnarumma, je me dirais tout ça pour ça. C'est dommage.
Tout à fait. Tariq, merci d'être venu. Dans général.
Tariq, t'as le bonjour de Joël Batz.
Ok.
T'as raison. On a un peu oublié Joël Batz. Merci Tariq. Très bonne soirée à toi. Très vite sur RMC. Dans un instant, on parle de Lyon. Tiens, avec vous, au 32-16, supporter de l'OL. Pierre Sage, s'est-il trompé tactiquement? Y avait-il mieux à faire hier face au PSG? On va en débattre avec vous sur RMC au 32-16 également. Reste avec nous et on ira à Roland Garros aussi. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas
Jamin. Génération After, merci d'être avec nous sur RMC en ce dimanche soir. Il est 20h48 et avec Kevin Diaz, avec David Gluzman et Ricardo Fati. On est ensemble jusqu'à 22h. L'After dans la foulée avec Gilbert, Daniel et Stéphane Guy ce soir. Il sera question notamment dans l'After des incidents entre supporters lyonnais, supporters parisiens avant la finale de Coupe de France hier soir. Alors Lyon, justement, battu hier 2-1 par le PSG, Paris, oui, il y avait de la marge, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, face à ce Lyon-là, hein, victoire incontestable, elle aurait dû être plus large encore sans le déchet devant le but de Lucas Perry. Mais Pierre Sage aurait-il pu être plus malin tactiquement? S'est-il trompé? Vous nous appelez sur Inter Lyonnais au 32-16. Tiens, je commence avec toi, Kevin. Certes, le PSG aurait pu mener 3-4-0 à la mi-temps, s'est fait un peu peur pendant, on va dire, quelques minutes en deuxième période avant de maîtriser la fin de la finale. Mais est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire? Au regard des deux défaites 4-1 en championnat, est-ce qu'il a fait les modifs nécessaires, Pierre Sage?
Moi, franchement, la seule chose que je pourrais lui dire, c'est que je n'ai pas forcément compris le choix de la titularisation de Ryan Cherki, même s'il a su comme...
Troisième fois d'affilée, hein, troisième titularisation.
Même s'il a su, comme toujours, assez... assez simplement expliqué son choix, c'est-à-dire qu'il voulait un joueur, enfin il voulait des joueurs qui sont capables de dans les petits espaces de garder les ballons pour pouvoir permettre au bloc lyonnais de remonter, ce qu'ils n'ont jamais réussi à faire puisque le Paris Saint-Germain a fait un pressing de très haut niveau et donc ils ont complètement asphyxié les Lyonnais. Maintenant, Pierre Sage, j'ai pas grand-chose à lui reprocher à partir du moment où le Paris Saint-Germain. Là, en fait, ce que je disais hier soir, je le répète, c'est que le Paris Saint-Germain, dans cette finale de Coupe de France, ils se sont mis en mode Olympique de Marseille. C'est-à-dire, ils se sont mis en mode classique. Et à partir du moment où ils sont en mode classique, Marseille n'a jamais réussi à les battre quasiment, à part une fois en Coupe de France. Et bah, Lyon, ils souffrent de la même chose. C'est-à-dire que les Paris Saint-Germain, ils se mettent en mode grand soir. Pas forcément grand soir Ligue des Champions, parce que là, le niveau pour eux, il est un peu trop haut pour l'instant. Par contre, en mode grand soir Ligue 1, il y a personne qui peut leur résister. À part quand ils prennent de haut une équipe comme Brest, ou quand ils ont des grandes difficultés face à l'intensité, que peuvent mettre notamment les Lensois, avec beaucoup de courage, beaucoup de cœur. Mais dès qu'ils jouent face à une équipe de sénateurs comme l'OM ou l'Olympique Lyonnais, là, la qualité technique individuelle des joueurs fait la différence et il n'y a pas vraiment photo.
Ouais, moi, si je peux me permettre de rebondir sur ce qu'a dit Kevin, j'ajouterais, en plus de Cherki, j'ajouterais Benrahma. C'est-à-dire que j'ai revu...
Mais lui, il est titulaire.
Non, mais j'ai revu un très long résumé ce matin de la défaite de Lyon au Parc 4-1. Sur les deux rencontres, il y a quand même 5 buts qui viennent de centre. Et en fait, avoir deux joueurs sur les côtés qui sont quand même très limite défensivement. On a vu Benrahma sur les deux premiers buts, c'était très compliqué. J'ai du mal à comprendre qu'on ait abandonné le couloir et laissé autant de liberté dans les couloirs quand déjà, t'as pris 3 buts sur 4 à l'aller sur des centres.
Mais David, après ça reste une finale, donc c'est un match à part. C'est dur de se calquer sur un match de championnat.
Ouais, mais c'était il n'y a pas longtemps.
Pas non plus reprocher à Pierre Sage de faire des choix offensifs, de vouloir créer des choses, parce qu'après, on va encore se plaindre s'il fait jouer un latéral ou un joueur plus défensif sur le côté.
Mais Nouama, il avait fait son meilleur match au Parc avec Lyon.
C'est vrai,
je pense que c'était à Lyon. Après, il avait marqué d'ailleurs. Il avait été dangereux.
En effet, après, comme on le disait, je pense que Pierre Sage, au quotidien, il a aussi ses ressentis. Il a aussi vraiment.
Une meilleure connaissance des
défenses. Une connaissance, un instant T, tout ça. Oui. Après, certes, Nouama était vraiment intéressant au Parc, mais.
Rennes Cherki contre le Paris Saint-Germain.
Non, ouais, c'est ça.
À 80 mètres du but adverse.
Je l'aurais plus, compris dans le cœur du jeu pour te sortir du pressing. Tu vois, plus que sur un côté.
Ouais, mais il peut pas dans le cœur du jeu parce que s'il défend pas sur le côté, il défend pas dans le cœur du jeu non plus. Et là, c'est quand même le cœur du réacteur et voilà. Le Paris Saint-Germain était trop fort. Là.
Autant le choix de Cherki était plus discutable, mais non, Benrahma, je pense que c'est un titulaire indiscutable. Mmh. C'est vraiment un joueur intéressant. Après, forcément, oui, ils se font déborder. C'est chose logique hein, pour un PSG.
Mais après, il se fait plus déborder par, bon, je vais pas parler de fainéantisme, mais par absence de réflexe défensif, que vraiment en fait par mise hors de position. Et peut-être qu'avec un Fofana qui est peut-être un peu plus discipliné défensivement, qui a un peu plus de jambes, parce que le premier but, je suis désolé, c'est pas de la mise hors de position, c'est de la fainéantise. Ah ouais. Il est en recul frein en fait sur Dembélé qui a juste une tête. Enfin, c'est quand même un peu compliqué.
Sûr que c'est un but quand tu le revois la vidéo. En plus, c'est un but d'une finale de Coupe de France que tu reverras sûrement dans 20 ans. C'est vrai que le problème de Benrahma, c'est que c'est un vrai attaquant, quoi.
Exactement.
C'est un joueur de côté.
Et c'est dur quand on tombe dessus parce que c'est la meilleure recrue hivernale en plus de Lyon.
C'est un vrai offensif. Il a vraiment du mal à défendre. C'est pour ça que moi, je suis quand même fan des ailiers à l'ancienne, que ce soit Lizarazu, que ce soit Sagnol, enfin bref, de tous ces ailiers reconvertis arrière gauche, mais qui pouvaient aussi jouer un peu plus haut peut-être. Et aujourd'hui, tu vois, Sidney Govou, c'est un mec qui était capable d'attaquer, mais était aussi capable de défendre.
Bien sûr, un énorme travail défensif.
Donc, mais c'est pareil pour Malouda, c'est pareil pour Sylvain Wiltord. C'est des mecs, même Robert Pires, hein, qui pourtant n'était pas le plus grand des défenseurs, mais qui faisait toujours les efforts. Et c'est ce que ont beaucoup de mal les jeunes joueurs à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tu n'es pas un attaquant ou un défenseur, tu dois faire les deux.
Un joueur d'équipe. Pierre est avec nous, 32-16, supporter de l'OL. Salut Pierre.
Salut les amis.
Bienvenue sur RMC dans Génération After. Alors, est-ce que tu contestes certains choix de Pierre Sage sur cette finale ou absolument pas? La marche était beaucoup trop haute pour les Lyonnais.
Je pense vraiment que j'ai été au-dessus, mais malgré tout, j'ai des incompréhensions. Je dis pas qu'avec la logique, on aurait gagné, mais moi, par exemple, j'étais dans le stade. J'ai déjà pas compris pourquoi Cherki était titulaire, alors qu'il a toujours été un impact player brillant depuis quelques semaines. Et il profite souvent du travail de Nouama, qui est hyper physique et qui fatigue les défenses pour ensuite avoir un autre profil technique. Donc ça, j'ai pas compris ça. Mais j'ai un truc que j'ai pas compris non plus, c'est en fin de match. Dans le stade, en fait, je voyais pas le chrono, moi. Donc, j'avais du mal à me situer, en fait, à quelle minute on était. Et je demande à mon fils, je lui dis, mais il reste combien de temps, là? Il me dit, 89e. Je dis, mais comment ça se fait qu'on sort pas le PSG? Ils ont le ballon depuis 10 minutes, là. Ils font des passes à 10 à l'arrière. Il y en a encore 4 derrière et 2 milieux défensifs sans sortir de notre camp. Bah, du coup, on a perdu sans avoir aucune occasion sur les 5 dernières minutes. Bon, on est content, on a pas pris le 3e. Et là, j'ai vraiment pas compris pourquoi il a pas demandé à tout le monde de sortir. Et pourquoi même les joueurs se sont pas révoltés, parce qu'on a perdu, je trouve, bêtement finalement, parce que j'aurais presque préféré qu'on prenne le 3e. Donc là, j'ai des choses que je comprends pas. J'imagine qu'ils doivent en discuter entre eux. Mais ça, j'ai pas trop compris. Alors, je lui en veux pas, parce que le PSG était clairement au-dessus et heureusement que Donnarumma, il est très mauvais sur les corners et que nous, Péry nous a fait quelques arrêts, parce que sinon, on serait absolument pas dans le match. On a eu quelques occasions pour revenir à 2-2, on aurait eu beaucoup de réussite, hein, donc on va pas être déçu après ce match, mais quelques incompréhensions, quoi.
Voilà. Ce qui est très difficile pour un supporter d'un club français aujourd'hui, c'est de se dire qu'en fait, si le Paris Saint-Germain est à son niveau, c'est injouable. Et c'est ce qu'on dit.
Paris Saint-Germain est juste rigoureux, en fait. Voilà. Injouable.
Ils ont perdu un match, ils menaient 2-0, lors de leur dernière finale de Coupe de France, ils ont perdu contre Rennes. Il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Ça reste des anomalies. Le Paris Saint-Germain, en Ligue 1, lorsqu'ils font ce qu'il faut, comme je te disais tout à l'heure, l'exemple sur les matchs contre Marseille, les matchs contre Lyon, souvent. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible de les battre. Et c'est pour ça que, contrairement à ce que certains croient, il y en a qui pensent que le Qatar ou que le QSI a sauvé la Ligue 1. Je demande à voir quand même.
Depuis l'arrivée de QSI, 33 titres pour le PSG. Le club le plus titré après, 2.
33 sur 40. Hein.
Ouais. Voilà.
Ouais. Non, mais c'est pour ça, il y a un moment.
Et attention, Kevin, on en reparlera bien sûr. On a déjà parlé de la relation cette semaine avec les droits télé qui vont arriver, les droits internationaux. L'écart va se creuser encore plus entre le PSG et le reste de la Ligue 1.
Et d'ailleurs, il faudra qu'on reparle cet été, hein, mais de la redistribution des droits télé, justement, qui est quand même cataclysmique dans notre football français.
Après CVC.
Quand on voit ce qui se passe en Angleterre et David est spécialiste et me donnait une statistique exceptionnelle tout à l'heure, mais c'est pas parce que je suis aujourd'hui dirigeant d'un club amateur, mais quand on voit qu'il y a très très peu de redistribution, ne serait-ce que en Ligue 2 ou même en National, qui pourrait devenir un jour une Ligue 3, je pense que ça ferait du bien à tout le football français.
Bon, voilà, on a élargi un peu le débat. Pierre, merci d'être venu sur RMC et dans Génération. Tu nous rappelles, on va parler de Lyon bien sûr dans les prochaines semaines, car il y a un gros mercato à venir. On va continuer de parler de Lyon dans un instant après cette information. John Textor veut vendre ses parts de Crystal Palace. On va en débattre parce qu'il a d'autres velléités en Première Ligue. Il veut plus de pouvoir au sein d'un club de Première Ligue, peut-être Everton. Quel impact pour l'OL dans les mois, voire les saisons à venir? D'abord, point Roland Garros avec Eric Salio. Oh, le frisson, Corentin Moutet, Eric Salio.
Ça ne m'étonne pas. 6-2 pour Corentin Moutet. C'était annoncé dans les paris RMC. Il y a une ambiance extraordinaire. Corentin Moutet est en train de rendre dingo le Chilien, qui est perturbé par les ruptures de rythme, les services à la cuillère. Tout y passe. Festival Moutet, donc 6-2. Pourvu que ça dure. C'est plus compliqué pour Harold Mayo, puisqu'il est mené 2-7-0 par l'Américain Sébastien Corda. En revanche, ça va bien pour Terence Atman, le joueur de Boulogne-sur-Mer, qui mène une manche à 0 face à l'Autrichien Hoffner. Et puis un mot sur le match du central, l'affiche 3-2 Wawrinka avec un break d'avance pour le Suisse, qui est en jaune. Il a remis des couleurs.
Merci Eric.
Amazon vous livre Roland Garros. Dès le 26 mai, profitez des 11 matchs du soir sur Prime Video. Abonnement payant obligatoire, voire tarif et conditions sur amazon.fr/prime.
Et dans un instant, la deuxième heure de Génération After. Lyon encore au programme. L'OM également après sa victoire historique en Gambardella 45 ans après. Qu'est-ce qu'elle raconte cette victoire? Romain Canetti sera avec nous. Et puis qui pour remplacer Wissam Ben Yedder à Monaco? Reste avec nous, RMC Génération After. On revient dans quelques secondes.
Génération After.
RMC. Les différentes opinions, c'est très bien, c'est pour ça que le débat ça dit. Moi, je fais du financement immobilier. Quand je finance des fonds, quand un fonds achète une tour à la Défense, il y a un bail commercial en 3-6-9.
J'entends par commandement l'équité, l'amour pour ceux en particulier qui nous sont soumis. Je peux lancer la pute.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, avec Ricardo Fatti, avec David Guzman.
Il y a des cours de philosophie, des cours d'immobilier. C'est incroyable.
Il y a Obama qui faisait une leçon magistrale comme ça, qui faisait tomber le micro avant de partir de scène. Et puis il y a Kevin Diaz qui, lui, froidement, tu peux lancer la pub.
Drop the mic. Parfait.
Ouais, c'est le mic drop façon Kevin Diaz. Exactement.
Bon. Kevin Diaz off.
Lyon. quel boulard intersidéral.
Non, en plus, c'est pas vrai.
Mais je sais, mais c'est ton personnage, ça va, t'inquiète.
C'est un personnage.
Bon, Lyon encore une fois. Là, sur le terrain, plutôt financier, de stratégie sportive surtout. On apprend donc, ces dernières heures, que John Textor veut se désengager de l'actionnariat de Crystal Palace. Hein, vous le saviez, Crystal qui a terminé une bonne 10e place de Première Ligue d'ailleurs.
Superbe seconde partie de saison.
Exactement. Il détient 45% des parts du club qu'il veut vendre parce qu'il n'est pas en mesure de se voir confier un rôle plus actif dans la gestion du club. Mm-hmm. Il a des ambitions, il a des velléités en Première Ligue. Il vote John Textor, c'est un patron. Voilà, il n'est pas là pour partager. Il est là pour imposer et affirmer ses idées et sa stratégie. Donc, le média The Athletic assure que Textor a pour ambition de s'attaquer rapidement à un club de Première Ligue. Everton, propriété actuelle de l'homme d'affaires anglo-iranien Farhad Moshiri. Textor reconnaît quelqu'un comme Everton est une superbe opportunité pour qui veut investir en Première Ligue, mais nie aujourd'hui tout intérêt concret de discussion pour Everton. Il dit Everton représente le meilleur du football anglais, les luttes, la gloire, le besoin. Tout le monde devrait vouloir acheter Everton dès maintenant. Je pense que le problème avec Everton est qu'il ne sera pas disponible au moment où nous serons prêts. Effectivement, le calendrier est compliqué, il faut vendre les parts de Crystal Palace. Évidemment, je rappelle la règle, tu ne peux pas détenir deux clubs d'un même championnat. Voilà où on en est, bien sûr, toi. David, tu voulais en parler ce soir également. Mm-hmm. Parce que si ça arrive, hein, et en tout cas, la motivation est claire, si c'est pas Everton, a priori c'est Everton qui intéresse John Textor, ça peut avoir des conséquences sur l'avenir de l'OL, mm-hmm. comme les conséquences que le rachat de Manchester, en partie par Ineos, a sur l'avenir de l'OGC Nice, ses ambitions en tout cas.
Absolument, surtout que là, l'OL est chanceux dans sa multipropriété, c'est-à-dire qu'il est en haut de la chaîne alimentaire. Il se sert à Botafogo, il se sert à Molenbeek, il fait même passer des joueurs par Molenbeek. Mais
il se sert d'eux.
Oui, exactement. Mais quand on est dans la même multipropriété, on a un club de Première Ligue, on voit qu'on devient vassal de ce club. C'est le cas, par exemple, à Lorient, bon, qui, malgré des négations de son propriétaire, va devenir un club. D'ailleurs, le propriétaire de Bournemouth le dit, je veux que ce soit ma farm team, c'est-à-dire que mon équipe qui alimente mon poulailler, mon équipe qui alimente mon équipe de Première Ligue. John Textor, il s'est fait pigeonner à Crystal Palace. C'était un pigeon, il s'est fait pigeonner. Crystal Palace, sortie du Covid, avait besoin d'argent frais pour développer une partie de ses infrastructures, avait besoin de combler un trou de financement. Ils ont trouvé John Textor. John Textor, il rentre dans le capital du club, d'abord 40%, ensuite 45%, mais il n'a que 25% du droit de vote. Donc en fait, lui, il veut vendre ça. Il valorise le club quasiment 1 milliard. Il pense qu'il va le vendre 45% d'un milliard, mais qui va arriver en n'ayant aucun, absolument aucun pouvoir, aucune voix au chapitre, d'autant plus que les actionnaires actuels ne veulent pas vendre. Iri Soukap, c'est David Blitzer, qui a déjà lui-même une galaxie de multipropriétés, notamment en Belgique, il a Augsbourg, il a Beveren, il a des clubs en Espagne, et il y a Steve Parrish, qui est l'operating partner qui a des parts, et qui gère Crystal Palace au quotidien. Eux lui disent, t'es bien gentil, mais nous, on te rachète tes parts quasiment rien, puisque t'as besoin de les vendre pour ensuite acheter Everton. Et par contre, si tu veux nous racheter les nôtres, bah ça va valoir de l'argent, parce qu'on sait que t'es pressé pour acheter Everton. Mmh. Donc en fait, il est complètement bloqué. Et il est bloqué aussi par rapport à l'Olympique Lyonnais, parce que au niveau d'Eagle, qui est sa holding, qui détient Molenbeek, Botafogo, qui détient l'Olympique Lyonnais, il a emprunté beaucoup d'argent à Arès, qui est un prêteur alternatif, plusieurs centaines de millions d'euros, plus de 400 millions d'euros. Et comment il veut sortir et rembourser Arès? Il veut faire coter son véhicule.
Excuse-moi, David, Arès,
c'est un prêteur. ARES, c'est un prêteur, c'est un énorme fonds d'investissement. Okay. Il a été un fonds de dette qui a prêté plusieurs centaines de millions d'euros.
D'accord.
Donc, lui, pour rembourser Arès, il veut coter son véhicule en bourse. Mais pour coter son véhicule en bourse, il faut qu'il y ait un club de Première Ligue. Parce que bien évidemment, ce sera attractif. Donc en fait, des deux côtés, Lyon est un peu bloqué. C'est-à-dire que ce soit Everton, ça risquerait d'être court, ou que ce soit un autre club, il y a des clubs qui sont plus ou moins en vente, Brentford, Mathieu Denham a dit vouloir vendre, Wolves, Fosun, le consortium chinois, a des problèmes de trésorerie, mais le but de John Textor, c'est de faire passer l'Olympique Lyonnais en second dans la hiérarchie. Puisque un club de Première Ligue, ça génère au bas mot 120 millions d'euros de droits télé par an. Et nous, en France,
bien sûr,
on est bien entendu handicapé par la non-visibilité sur les droits télé et par la faiblesse des droits télé, par la faiblesse des revenus. Et en plus, à Everton, il s'intéresse à Everton pourquoi? Parce que c'est en faillite, 777, ouais. Elle a problème 777, et il y a un nouveau stade qui est en train d'être construit. Et ce nouveau stade, il va valoir lui seul
plus de 800 millions de livres.
La question, c'est ne peut-on pas, et dans le cas de John Textor, hein, s'il venait à racheter Everton, être aussi ambitieux avec Lyon qu'avec Everton? Là, on parle quand même d'une locomotive Ligue 1 aussi, hein. L'Olympique Lyonnais, il a commencé à bien travailler. Il sera européen la saison prochaine, pas encore à la hauteur de ses ambitions en Ligue des Champions. Qu'est-ce qui empêcherait d'être ambitieux à Everton et également à Lyon?
Bien évidemment, tu peux, mais après, John Textor, il a aussi des moyens financiers limités.
C'est-à-dire forcément que c'est pyramidal pour lui, tu vois.
Non, c'est pas forcément pyramidal, mais ses investisseurs. Tu penses qu'ils vont lui demander d'avantager qui? L'équipe qui génère 200 millions d'euros de droits télé et de revenus par an, l'équipe qui a des revenus plus ou moins sécurisés de plusieurs centaines de millions d'euros, ou Lyon qui est bien évidemment un club immense, et je veux pas du tout dénaturer la qualité et la magnitude du club, mais qui aura une source de revenus un peu moindre. Non, d'autant plus que John Textor veut déjà vendre l'aréna, il y a question de céder l'exploitation du stade, il y a eu plusieurs
Le truc, moi j'ai une question, David, c'est quand il achète les parts, que tu as dit là, j'ai bien compris qu'il a 45%, mais qu'ils valent que 25%
des
droits de vote, donc c'est-à-dire qu'en fait il ne peut décider de rien. Mais qui lui conseille, en fait? C'est juste pour mettre un pied en première ligue, il se dit qu'il va racheter après. Et qui lui conseille ça, en fait?
Moi, je pense qu'il était naïf. Il connaissait pas du tout le monde du football. Il a mal analysé la composition de son actionnariat.
Il n'est pas tout seul à décider, si.
Non, mais après, écoute, si tu prends un point de vue d'un investisseur qui prête de l'argent à Textor, pour investir dans Crystal Palace, les droits de la première ligue s'apprécient.
Oui, okay,
Crystal Palace sportivement. Donc la valeur de Crystal Palace qui a un permis pour construire un nouveau stade, elle s'apprécie. C'est pas bénéfique pour Textor, mais pour celui qui lui a prêté de l'argent, il se dit, moi mon argent, je vais le revoir.
Ce qui est dingue, c'est qu'en fait, moi ça m'intéresse, hein, tu le sais, tout ce qui est économique, l'immobilier, mais en fait on est en train aujourd'hui de spéculer sur des clubs de foot comme on spécule sur des immeubles, et le souci c'est qu'un club de foot c'est tout sauf un immeuble.
C'est pas tout à fait nouveau, hein, Kevin.
Non, mais attention, parce que là
ça a toujours été un investissement.
Ça a toujours été un investissement, mais là quand même, ce qui nous explique, je sais pas moi, quand t'achètes un tantième de ton immeuble, t'as marqué combien de droits de vote tu as, et en général tu es quand même content puisque ça va avec avec la part exactement, c'est le mot Ricardo, c'est proportionnel avec ton achat, mais là quand même ça peut ne pas être proportionnel. Alors tu peux mettre un pied dans le marché anglais, mettre un pied sur la première ligue, mais il y a autre chose. La multipropriété, forcément c'est déjà très compliqué, mais quand c'est un petit club qui a du mal avec son marché, tu sais, les Américains parlent de marché en termes de franchise et de club, je peux l'entendre. Lorient, je peux l'entendre, qu'il soit dans une multipropriété avec,
et notamment une locomotive,
avec Bournemouth.
Mais c'est Bournemouth, c'est la locomotive, un stade de 11 000 personnes.
T'as compris, ça reste quand même la première ligue.
J'entends.
Ça reste la première ligue. Voilà. Trois, ça s'est pas du tout bien passé.
Toulouse et Milan.
Mais là, c'est l'Olympique,
une hiérarchie sportive.
Mais là, c'est l'Olympique Lyonnais.
Et donc en fait,
l'Olympique Lyonnais. Non, c'est eux qui devraient avoir une galaxie. Tu vois ce que je veux dire?
Ils ont
la Svel.
Ils devraient être en haut de la pyramide.
Ils sont en haut de la pyramide.
Pour l'instant.
Et ça risque de changer.
D'où ma question, David, en vitesse. En plus, dans le chat, je l'ai vu, ça a défilé le 11 lyonnais. Un salut à lui.
Ouais.
Parce que justement, Lyon n'est pas un club trop gros pour être vassal d'un club de première ligue.
Mais trop gros, pourquoi en fait?
Mais trop gros, on parle. Vraiment football, hein. Je parle pas d'un poids économique.
Mais Lyon à côté d'un top 10 première ligue, c'est petit.
Non, mais c'est pour ça. Mais moi, je te parle
d'un terme de recettes.
Toi, t'as raison parce que tu parles sportivement. T'as raison parce que tu parles tactique, parce que tu parles technique. Mais lui, il veut coter un véhicule en bourse, en fait. Et en bourse, il y aura des investisseurs qui vont voir.
Quand tu dis un véhicule, précise parce que.
Un véhicule, pardon. Eagle. Il veut coter sa structure qui s'appelle Eagle, qui détient tous les clubs.
C'est
sa structure, en bourse. Il va à côté de la bourse.
Mais est-ce que tu te rends compte que, moi, je comprends tout à fait, je suis d'accord avec toi, puisque souvent, et d'ailleurs, grâce à RMC Sport, j'ai commenté pendant des années la première ligue, et je me suis rendu compte de ce qu'est le football anglais, de ce que sont même les petits clubs, comme Everton, les moyens, mais même les petits clubs comme Crystal Palace, comme Fulham, les joueurs qui sont là-dedans, de toute façon. Tous des internationaux, tous des
joueurs
de grande qualité, etc. Mais est-ce que tu te rends compte que pour un Français, qui est dans le football français, qui pense encore que parce qu'on est champion du monde mais deux fois sur les 25 dernières années,
Lyon,
on est
fait demi-finale.
Il y a énormément de Français qui pensent qu'on est un grand club, on est un grand pays de clubs de foot. On croit.
Moins en moins, Kevin.
Non, il y a beaucoup de gens. Non, mais pas du tout. Dans le football français, tu parles avec les gens.
Qui va te dire que c'est un immense championnat comparativement?
Mais je te le dis. Moi, je te le dis pour les gens qui travaillent dans le football français. Le football français, on est champion du monde. Il y a encore pas si longtemps, on a fait une finale. On est les meilleurs. Ils pensent qu'on est les meilleurs. Et ça, c'est un problème. Mais je dirais quand même que on est en train de dire que Lyon pourrait devenir dans une pyramide en dessous Everton. Mais ces gens-là, ils ne le comprendront jamais, en fait. Alors que factuellement, c'est réel. Économiquement,
mais si, on le
oui, Lyon est en dessous des. Non,
ils mais c'est naïf.
Mais parce que, mais regarde, je mais regarde le classement, si, en fait. Le classement des clubs les plus valorisés qui valent le plus cher. Mais il y a l'écrasante majorité de la première ligue. Grâce au travail centralisé de la négociation des droits.
David, le dernier de première ligue prend combien droits télé par saison?
Alors, je peux te le dire, il prend 108 millions parce que le nouveau salary cap, voilà. le plus gros club pourra dépenser 5 fois ce que le plus petit prend en droit télé. Et le seuil a été placé à 520 millions par an en salaire.
Ce qui équivaut à ce que prend chez nous en France le deuxième ou troisième de Ligue 1 en droit télé.
Ah non,
le premier,
bien évidemment, ouais. Bien évidemment. Donc c'est pour ça que tout le monde veut et John Textor s'est aussi positionné sur un club potentiellement ambitieux de Championship. Donc là, ça pourra peut-être soulager l'Olympique Lyonnais qui va pas être bien évidemment vassal d'un club de Championship. Mais c'est pour aller chercher les droits télé anglais. Pourquoi vous croyez que cet après-midi Leeds Southampton, on l'appelle le match le plus cher du monde? Parce qu'au bas mot, c'est 200 millions d'euros garantis. 120 droits télé, plus de 80 bien parachutes sûr. S'ils descendent.
Et c'est d'ailleurs Southampton qui a approché
millions
son billet.
Zéro. Pour la Cédric Forêt de Championship.
Bon voilà, bien sûr, on va suivre ça avec attention parce que ça peut impacter les ambitions sportives lyonnaises dans les prochains mois. John Textor a du mal pour l'instant à reconnaître qu'il s'intéresse à Everton en particulier. En tout cas, il cache quasiment pas ses velléités.
Ah non,
son envie absolue.
Trop honnête.
Voilà, d'être majoritaire.
Mais parce qu'il y a des investisseurs, il doit les rassurer aussi.
Et en fait, on peut dire que peu importe le club de première ligue, il sera toujours en haut de la pyramide, au-dessus de l'Olympique Lyonnais, dans sa pyramide à lui, dans sa galaxie en tout cas. Ça semble assez clair. Bon, on en reparlera bien sûr dans les prochaines semaines. Merci David pour cet éclairage. Dans un instant, on va parler de Marseille également, la victoire en Coupe Gambardella. Raconte-t-elle qu'il faut faire plus confiance aux jeunes à Marseille les prochaines saisons? Tiens, dans un instant, Romain Caludi sera avec nous. Il va nous parler des pépites marseillaises actuellement au centre de formation. Reste avec nous, Génération After sur RMC. On revient dans quelques secondes. À tout de suite.
Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Ricardo Patti, David Guzman et Kevin Diaz, merci d'être avec nous sur RMC, il est 21h18. Alors, je voulais qu'on parle également ce soir de l'Olympique de Marseille, car événement hier à Lille, pour la première fois depuis 1979, l'OM a remporté la Coupe Gambardella. 45 ans après, donc 4-1 face à Nancy. Un gros écart entre ces deux formations, les U19 Marseillais et U19 Nancéens. Immense fierté à Marseille de voir enfin une génération triompher, trop longtemps raillée pour son incapacité à former des jeunes compétitifs. Alors on a convoqué ce soir notre ami du Fosséen et également de l'After. Romain Canuti est là ce soir. Salut Romain.
Salut Nico, salut Kevin, Ricardo, David, ravi d'être avec vous.
Salut Romain.
Surtout
salut
pour
Romain.
Parler de ce beau sujet.
La voix, vous avez vu, est frêle. Hein. Je ne sais pas s'il a fêté la victoire en Gambardella, Romain.
Exactement.
Peut-être l'émotion.
C'est ça, ça a repris tout le répertoire de Queen après la victoire, donc forcément, ça se paye.
Bon, raconte-nous comment est vécu à Marseille cette victoire du 19. J'imagine qu'elle rend fière également.
Oui, totalement. Ben, c'est... Il y a tout un contexte, c'est-à-dire que ça faisait une dizaine de jours qu'on était à Marseille très inquiet et qu'il y avait pas mal de supporters qui parlaient un peu de scandale parce qu'il y a trois joueurs, les trois joueurs clés, ben, par définition, les trois joueurs appelés en équipe de France. Donc, Sternal, Bacola, notamment, dont on a beaucoup parlé, et Celani qui était en équipe de France et donc pas dispo
U17
pour cette finale.
U17 pour l'Euro, c'est ça, ouais.
C'est ça. Et donc, du coup, tout le monde était à se dire, mais c'est un scandale, il nous les faut. Cette finale de Gambardella, on l'a pas jouée, oubliant un peu que dans le développement d'un jeune, c'est pas si important que ça. Mais pour nous, c'était une finale de Coupe du Monde du vin, parce que justement, il y a cette date.
Cette attente, voilà, quoi. Ouais.
Cette attente-là. Et donc, du coup, se dire que derrière, tout le monde s'est un peu mis sur le match et de voir cette victoire, bon, qui se dessine assez vite. Et puis voilà la belle histoire avec Kélan Abdallah avec sa petite bandelette alors qu'il y a son oncle qui commente le match. Voilà le fait de réaliser ça assez vite sur le match, le contexte avec les supporters parisiens lyonnais qui ont pas brillé par leur intelligence sur ce coup-là. Je suis pas dupe, hein. Il y aurait eu une finale avec des jeunes du PSG à Marseille. Il y aurait peut-être eu certains qui auraient eu d'aussi mauvais comportements. Mais voilà, il y a tout un ensemble de choses qui fait que, et puis la saison de l'OM, évidemment, qui fait qu'on se dit, bah tiens, on a droit au bonheur une deuxième fois cette saison. Je dis une deuxième fois parce qu'il y a eu bien sûr Dortmund qui nous a oui. régalé.
Évidemment, le taquet traditionnel. Est-ce que c'est un peu court de dire que cette victoire en Gambardella valide aussi le projet d'une formation plus comment dire
ambitieuse,
plus ambitieuse à l'Olympique de Marseille après des années de quasi abandon de la formation marseillaise.
Oui, c'est un tout, parce que si on regarde bien cette formation, les joueurs qui composent cette équipe qui ramène le titre, ils ont été choisis par Nasser Larguet au final pour la plupart. Donc on pourrait se dire, bah tiens, c'est peut-être le travail d'avant, les graines qui ont été plantées avant, et on voit bien d'ailleurs que du côté de Pablo Longoria, rappelez-vous qu'il avait été bien critiqué en début de saison pour sa politique de jeunes. Là, il fanfaronne pas non plus à ce niveau-là. Donc, ça peut se comprendre. Et en même temps, il y a une décision de Marco Otero, qui est l'homme du centre de formation et placé par Pablo Longoria, qui a pris une décision de retirer certaines équipes, de surclasser certains joueurs. Et c'est une politique, une stratégie qui porte aussi ses fruits. Après, personne n'est dupe, personne ne se dit là, il y en a quatre dans l'équipe qui vont composer la future ossature de l'OM. On sait comment ça se passe pour les finales de Gambardella. Moi, je me souviens, il y a quelques mois, avec Kevin sur le plateau, on avait un débat sur Lyon et je lui parlais de La Rouche.
Oui.
Qui, je me souviens, avait fait un super match, une super gambarde avec Lyon, et je me suis dit, à un moment donné, il va avoir sa chance, et puis voilà. Bon, force est de constater que c'est Kevin qui avait raison. La Rouche, on l'a jamais vu avec les pros à Lyon. Alors c'est pas fini, et bien sûr, on va pas annoncer une fin de carrière, faut pas. Mais si on l'a pas vu depuis ce temps, c'est qu'il y a une raison.
Ouais, mais Romain, après, on a quand même une base intéressante à l'OM. Pour une fois, oui, je pense totalement. qu'il faut quand même capitaliser là-dessus.
Il faut dire que tu les as joués, hein. Les 19 Marseillais, c'est ça?
Non, moi, non. Toulouse. Enfin, moi je coach à Versailles, les U18. On a fait un joli parcours en Gambardella. On a perdu en 8e de finale contre les Toulousains, qui sont aussi très très bons, avec une très belle génération, 2006-2007. Mais Romain, côté Marseillais, je pense qu'il faudrait quand même. Je pense que ça peut être une bonne base pour entamer un nouveau cycle, on va dire, de formation et de promotion.
Promotion des jeunes en équipe pro?
Totalement.
Moi, je suis complètement d'accord. Mais la question, les gars, excusez-moi, est-ce qu'il y a des joueurs aujourd'hui, même dans cette équipe, mon cher Romain, qui sont aptes, qui peuvent apporter une plus-value à l'effectif professionnel?
Je peux répondre juste à Romain, parce qu'on avait parlé en effet de El Arouche l'an dernier. Alors, Ricardo est en plus en U19 R1 cette saison, donc il sait. Bien sûr qu'il y a des très bons jeunes en France. Bien sûr que notre formation, elle fonctionne très bien. Et d'ailleurs, plus que cette Gambardella, pour moi, c'est la finale du championnat de France U19 l'an dernier, qui était un beau marqueur pour l'Olympique de Marseille, sachant que je crois que les U17 avaient perdu en demi-finale. Donc ça, c'est le marqueur que le centre de formation marseillais, déjà depuis plusieurs saisons maintenant, fonctionne très bien. Maintenant, regardez les vainqueurs de Gambardella. Moi, j'en ai plein qui m'envoient des CV. Ah, il a fait une finale de Gambardella en 2012. Ah, il a gagné la Gambardella en 2018. Mais en fait, aujourd'hui, tout ça, vous parlez des jeunes, vous avez qu'à regarder aujourd'hui les championnats de National 2, le nombre de réserves professionnelles qu'il y reste. Zéro l'année prochaine. Ok, aucune. Donc quand je dis que le niveau National 2 en France est très élevé, alors, même les meilleurs jeunes français et leurs équipes n'arrivent pas à ne serait-ce que se maintenir, et ça fait déjà plusieurs années que ça dure. En N3, il y en a même plus beaucoup. Il y en a aussi beaucoup qui sont en R1. Non, c'est pas un autre débat, c'est le même. C'est-à-dire que si on pense qu'un U19 qui réussit a gagné la Gambardella, qui fait une belle saison en U19 et est prêt pour le football professionnel? Non. Non. Est-ce qu'il est même prêt?
Il ne s'agit pas de l'insérer comme un titulaire à part entière de l'Olympique de Marseille. Je pense que Marseille, ceux qui nous écoutent, savent ou connaissent le potentiel de certaines individualités.
Il y a toujours, bien sûr, des exceptions qui confirmeront la règle, mais je confirme que aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est ce qui se passe, notamment au Portugal, notamment en Hollande, maintenant depuis plusieurs années. C'est-à-dire que les réserves qui accèdent jusqu'à la Ligue 2, là, c'est intéressant, parce qu'on laisse les ou même ce que fait Monaco avec leurs réserves, qui fait le pas forcément élite, le championnat, mais qui a un groupe élite avec David Perrinel, voilà, qui fait un championnat vraiment où ils se voyagent et tout, ils sont déjà habitués aux déplacements, etc. Et notamment un gars comme Magnès Akliouch, qui lui est arrivé à maturation maintenant, mais quel âge il a, Cliouche? Il a 21 ans. Donc en fait, à 21 ans, tu es prêt au niveau. Mais à 19 ans, c'est très compliqué.
Bien sûr, mais après, quand on parle de N2, N3, après, c'est surtout au niveau de la politique des équipes, des clubs. Parce que maintenant, tu le sais très bien, de plus en plus de réserves pro jouent très très jeunes. Ils jouent assez
trop jeunes.
Ils ne sont pas prêts pour jouer
N2. Mais c'est pour ça que je te dis que même pour la N2, ils ne sont pas prêts. Alors pour la Ligue 1, c'est
une question politique. Après, attention, moi, je n'ai jamais dit que ces joueurs-là. On parle des Enzo Sternal, de tous ces des jeunes joueurs Bacola qui sont excellents, mais ils sont encore jeunes. Ils ont 16, 17 ans, même pas encore majeurs.
Mais Ricardo, eux, c'est aussi leur volonté. C'est ça le problème. C'est que Sternal et Bacola, on fait un débat là, et c'est très bien. Mais le débat, il est déjà fait dans la famille de Sternal et dans la famille de Bacola. Et alors que les deux, qui sont les deux plus talentueux, on rappelle, et qui ne jouaient pas hier, eux, leur demande, c'est déjà de dire on aimerait des garanties sportives.
Ils un peu comme Isaac Liadji à l'époque.
Tu parles quoi? Le temps de jeu, en fait, du temps de jeu, les garanties sportives?
Ouais, alors, Liadji, c'est différent. Honnêtement, sans me vanter ou quoi que ce soit, tu voyais dans ce qu'il y avait un talent. Hein, c'était un petit Di Maria, Liadji, sur ses années, sur ses jeunesses. Ouais. Mais tu sentais, peut-être la personnalité qui allait manquer pour passer pro. Et là, je vois des joueurs, notamment ce Gaël Lafont. Donc, on voit
ce qui s'est rentré déjà contre Benfica, d'ailleurs.
Voilà, qui était rentré comme Benfica, il y avait cette photo où on le voit sourire. Alors, tu fais pas une carrière sur un sourire. Hein. Il y a Pierre Aristouille qui avait gagné sa place à Nantes sur le banc avec une photo dans l'équipe. On a vu que ça a tenu 4 matchs. Gaël Lafont, il a pas que ça. C'est un joueur qui, là, sur la finale, a gagné tous ses duels et qui est déjà dans une mentalité de pro qui me fait dire que même si c'est pas sur la ligne de départ le plus talentueux, il va pouvoir aller gratter quelque chose.
Une place ça, mais messieurs, vous savez, souvent je dis, et tout à l'heure tu en as parlé avec Ricardo, qu'il ne faut pas faire jouer les jeunes trop tôt.
Trop tôt, bien sûr.
Mais vous savez pourquoi? Parce que je le dis à chaque fois et je le répète encore une fois ce soir. Et ceux qui ne le comprennent pas ne pourront jamais travailler dans un club de foot. Lorsque tu fais jouer Warren Zaïre-Emery, lorsque tu fais jouer Kylian Mbappé à ces âges-là, lorsque tu fais jouer Pedri, en fait, ça rentre dans la tête de tous les entourages et de tous les parents.
Oui, bien
donc,
sûr. Oui,
ça sert. Il y a
Roger Zaïre-Emery maintenant.
Ça sert celui-ci, mais ça dessert tous les formateurs qui sont derrière.
Attention, pour finir, Kevin, moi, et Romain aussi, d'ailleurs, moi, je ne pousse pas ces jeunes-là à avoir des garanties sportives. Mmh. Moi, je pousse Marseille, je pousse l'OM à avoir une politique de jeunes. C'est pas la même chose.
Ricardo,
il faut avoir le discours. Romain, je termine. C'est pour ça, moi, j'encourage maintenant les mecs qui sont en place. En plus, je les connais trop bien. Force est de constater, c'est Mehdi Benassia. Personnellement, s'investir dans la formation. Mais moi, je te parle pas de garantie sportive. Moi, je ne veux pas ou je ne souhaite pas aux jeunes de 16 ans d'aller au feu en Ligue 1 dès la saison prochaine. Surtout à l'OM, prendre des grosses responsabilités et après se brûler les ailes. Non, moi, je parle d'un accompagnement et d'une politique sportive pour faire comprendre aussi aux jeunes. Étape par étape.
Voilà, on a un plan sur le moyen terme avec toi.
On va terminer. C'est exactement et d'ailleurs, Romain va le confirmer, ce qu'on reproche à la gouvernance Longoria, au-delà des résultats qui sont plus ou moins bons sur le moyen terme, c'est le manque d'identité. C'est que les Marseillais n'arrivent pas à s'identifier à leur équipe. Il y a trop de trading, il y a trop de turnover d'entraîneurs, il y a trop de mouvements. Et là, en fait, t'as un joueur qui s'appelle Enzo Sternal, qui est un des meilleurs de France, de sa catégorie. Lui, ce qu'il demande, c'est un parcours. Il demande un chemin. Il demande pas qu'on lui ouvre la porte, mais il demande un parcours. Oui, il demande pas de garantie.
Romain.
C'est à lui, en fait, de se le créer. Et par rapport à ce que disait Ricardo sur le projet, ça pourrait presque porter un nom. Pour moi, c'est le plan, le projet Lucas Perrin. Je ne sais pas si vous vous rappelez Lucas Perrin, mais à un moment donné, il y a quelques saisons, il y a eu des suspensions, des blessures en défense centrale. André Villas-Boas, à un moment donné, hésite à faire jouer Kevin Strootman en défense centrale. Et Strootman participe à la réflexion en disant « Mais non, il faut lancer le jeune. » Lucas Perrin a l'occasion d'enchaîner trois matchs de Ligue 1 consécutifs. Derrière, il s'est fait une place. Derrière, Lucas Perrin, il s'est fait une place en Ligue 1. Donc ça, quelque part, c'est de dire, par rapport au projet, comme vous disiez, c'est à le faire, c'est de dire à Desternal, à Debacola, je pense, dans le projet, vous êtes dans le groupe, il n'y a pas de garantie de temps de jeu, il y a pas de... mais si à un moment donné, il y a une opportunité, non plutôt mais... que d'aller chercher un mec, plutôt comme cette saison, d'aller chercher un Luis Enrique de retour de prêt du Brésil, alors qu'on sait que ça n'a pas forcément marché et qu'on ne le voit pas faire de différence, faire que des passes faciles, entre guillemets, ben à ce moment-là, on va peut-être vous donner la chance à vous.
Mais financièrement, vous allez devoir le faire.
Mais c'est même pas de devoir le faire, les amis. N'importe quel club veut faire jouer ses jeunes. Si le gars est bon, le gars lui a coûté juste sa formation, il n'a pas besoin d'envoyer 10 millions pour aller prendre un jeune dans je ne sais quel championnat. Bien sûr que Marseille, n'importe quel club, si t'as un phénomène, si t'as un mec qui est mature, si t'as un mec qui peut jouer à 18 ou 19 ans, bien sûr il va jouer. Mais qui va dire qu'il va pas jouer? Par contre, aujourd'hui, quand
tout dépend du contexte,
le problème que les joueurs et que leurs familles ne veulent pas comprendre, c'est qu'il y a quasiment aucun joueur en France aujourd'hui qui a moins de 18 ans peut jouer en Ligue 1 titulaire 25 matchs. Il y a des étapes à respecter, okay. C'est tout.
Bon, voilà pour le sujet passionnant. On va suivre ça, bien sûr. Romain, merci d'être venu. On te retrouve bientôt sur RMC dans l'after. À très vite. Bonne soirée à toi.
Salut, Romain.
Avant de parler de Wissam Ben Yedder, un Français en train de gifler le finaliste du Master 1000 de Rome il y a 10 jours. Eric Stadio, ouais. Corentin Moutet fait un match incroyable.
Tout ce qu'il touche se transforme en or. Je pense que Jarry ne sait plus jouer au tennis. Le score, hein, c'est important, il y a 6-2, 5-1. 6-2, 5-1, hein, je répète, pour Corentin Moutet, face, effectivement, tu l'as dit, à un mec qui est tête de série ici, qui vient de faire finale à Rome et qui ne sait plus quoi faire. Il est totalement perdu. C'est hallucinant ce que réussit à faire Corentin Moutet avec toutes ses armes. Et là, il vient de même se télescoper avec un ramasseur de balles, le pauvre Nicolas Jarry. C'est pas sa soirée. Autre chignon au tapis, Tabilo. Tabilo sorti par Zizou Berg.
Incroyable histoire.
Le prénom de Zizou, oui. Vous raconterez plus tard. Incroyable.
Merci beaucoup, Eric.
Amazon vous livre Roland Garros. Dès 26 mai, profitez des 11 matchs du soir sur Prime Video.
On veut savoir.
Payeur obligatoire, voir tarifs et conditions sur amazon.fr/prime.
On veut savoir pourquoi Berg s'appelle Zizou, effectivement. Eric vous le dira dans la soirée, bien sûr. C'est un magnifique teasing.
Juste, est-ce que c'est vraiment le football, le tennis qu'on aime, du coup
Roland Garros, bien sûr, les chemisettes rougies par la terre battue, les hommes partent à l'église.
Moutet, là, c'est vraiment le tennis qu'on aime.
Mais bien sûr. C'est le magicien.
C'est le tennis de 100 euros.
Ouais, exactement. Tu peux comparer ça à ça. C'est un tennis de toucher de balle. Attends, un tennis
provoqué.
C'est magnifique. Bon, sachez que le Barça mène 1-0 hein, dans son dernier match de la saison en Liga sur la pelouse de Séville. C'est Robert Lewandowski qui a ouvert le score. Et puis sachez également que le FC Porto a remporté la Coupe du Portugal de buts à 1 face au Sporting grâce à des buts d'Evanilson et de Taremi. Dans un instant, on parle de l'AS Monaco qui pour remplacer Wissam Ben Yedder. Mais fallait-il le garder à tout prix? Reste avec nous. C'est Génération After, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin. Génération After avec Kevin Diaz, avec David Guzman, avec Ricardo Fati. Dans un instant, on parle de l'AS Monaco. On parle de Wissam Ben Yedder, hein, dont le départ a été officialisé. Il est arrivé à la fin de son contrat. Êtes-vous surpris? Aurait-il fallu le garder, le prolonger donc, et qui pour le remplacer? On va en débattre dans un instant sur RMC ensemble. D'abord le tennis. Roland Garros, Eric Salio, c'est incroyable. 2-7-0 pour Corentin Moutet face à Nicolas Jarry, 19e joueur mondial.
Oui, et puis un score incroyable, 6-2, 6-1. Il est en train de l'écraser, de le ridiculiser. Alors attention, il y a encore un set à aller chercher, mais c'est une sorte d'état de grâce. Comme je disais, tout ce qui touche se transforme en or. J'ai envie de dire, il lui fait l'amour, mais il fait tout, quoi. Des amortis, des changements de riz, des accélérations. L'autre ne sait plus où il habite. C'est impensable.
Il y a 30 cm d'écart entre les deux aussi.
Ouais, hein, mais son aventure au Chili l'a transformé, je pense.
Le match de l'a marqué parce que il l'avait gagné ce match, mais il avait été pourri par le public de Santiago. Et donc, sur les réseaux sociaux, il avait annoncé la couleur. Il a dit, OK, on se retrouve. Je veux une ambiance à la chilienne. Incroyable. Et quand il est entré sur le court, Jarry s'est fait siffler. Il a eu un petit sourire. Je peux dire qu'il rigole plus, hein. Il sait pas ce qu'il n'arrive pas à comprendre ce qu'il lui arrive.
Très bien. Wawrinka Murray, combien?
Un 7-0 pour Stan.
Ouais, ça ne t'intéresse pas du tout. Partout.
Bah non, mais j'ai le nez sur mon écran, forcément.
Ce qui nous intéresse également, c'est l'histoire de Zizou Berg, qui a tapé le Chilien Tabilo, qui avait fait demi-finale à Rome.
Il sort des qualifications.
Pourquoi cet homme-là? Nationalité Zizou Berg, rappelle-nous.
Belge.
Pourquoi s'appelle-t-il Zizou?
Alors, il se trouve que...
Tu l'as fait en une minute, même pas, hein, 40 secondes.
Mais il se trouve que je suis allé manger à la cantine tout à l'heure et je tombe sur des confrères belges.
Ah, bien.
Et ils me racontent l'histoire et ils me disent, c'est très simple. Alors, le père de Zizou jouait au foot. Donc, ils attendaient un enfant. Ils étaient sûrs que c'était une fille. Et là, stupeur, c'est un garçon qui sort. Alors là, ils sont vraiment... ils savent pas quoi faire. Oui. Et le père, qui joue au foot dans une équipe, et dans leur équipe, ils avaient tous des surnoms. Et lui, son surnom, c'était Zizou. Alors, il dit, bah... On a qu'à l'appeler Zizou.
Ah ouais, non, mais
il s'est passé à l'état civil. Et voilà comment il s'appelle Zizou Berg. Il est né en 98, hein, comme par hasard. Hein.
Ah ouais. Je sais pas si c'est un cadeau ou pas. Non. Je suis pas sûr quand même.
Zizou. Bah, Zizou, tu me dis à la rigueur, je dis Nedine.
Ouais, Nedine, pourquoi pas.
Il y a Zizou, tu vois.
Mais Zizou.
Et le mec joue très très bien.
D'accord. Zizou, le prénom, c'est.
Le mec s'appelle Zizou à vie, c'est terminé.
Même les Brésiliens n'auraient pas osé.
Vous savez que l'histoire, c'est que
les Congolais n'ont
pas. L'histoire, elle remonte plus loin. C'est grâce à Roland Courbis qu'il s'appelle Zizou Bergs. Car c'est Roland à Bordeaux, voyant, qui a donné ce surnom à Zinedine. Ouais. Yazid, il voulait pas l'appeler Yazid, il voulait pas l'appeler Zinedine. Un jour à l'entraînement, il m'a raconté, il dit, Zizou, oh Zizou, je t'appelle comme ça, c'est plus simple.
Ouais.
Voilà pourquoi. Tu le diras à Bergs, hein, souvent en conférence de presse, Eric, hein, c'est grâce à Roland Courbis, un truc qui s'appelle Zizou.
Roland, il va demander un pourcentage sur le prize money.
Ah oui, tu le connais. À tout à l'heure, Eric.
Ciao.
Monaco, Ben Yedder va donc quitter l'AS Monaco. Hein. 5 saisons, 201 matchs, 118 buts, il va forcément laisser un grand vide. Ben Yedder, c'est donc 23 buts en moyenne par saison, toutes compétitions confondues. Meilleur buteur surtout de l'ASM chaque saison. Et de loin, Monaco se déleste aussi de son plus gros salaire, 650 000 euros par mois. Aucune proposition de prolongation n'a été faite. Jamais la direction n'a évoqué, hein, pour expliquer ce départ, la mise en examen de Ben Yedder pour agression sexuelle, tentative de viol et viol. L'enquête est en cours, bien sûr. En tout cas, ça n'a pas été mis en avant pour expliquer la fin d'aventure de l'international français. Bref, Monaco perd un attaquant fiable, très fiable. Question Ricardo déjà, fallait-il tourner la page Ben Yedder? Oui. Il faut aussi avoir en tête cette affaire judiciaire, hein, bien sûr. Je pense que quand tu es dirigeant, même quoi qu'il arrive.
Au-delà de l'affaire, je pense qu'il fallait tourner la page de Wissam. Après, ça reste encore un super attaquant, super efficace. Je pense qu'il est arrivé à la fin de quelque chose là-bas, à la fin d'un cycle. Il a fait 5 saisons, il a 33 ans, il aura 34 ans en quelques mois. Donc, Monaco s'est plus ou moins armé offensivement avec Balogun, tout ça. Donc, je pense que oui, il est temps aussi pour lui de voir autre chose après 5 ans. Je pense que bon. Logiquement, il y a aussi peut-être aussi l'Arabie qui peut le tendre les bras, sachant qu'il a raté encore, même si c'était très prévisible, il a raté le train de l'Euro, de l'équipe de France. Donc voilà, je pense qu'il est temps pour lui de tourner la page. Et voilà, sans rentrer vraiment dans ces détails,
hein, oui,
sportivement parlant, c'est mieux pour Monaco.
Kevin, qu'est-ce que t'en penses, toi? On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on trouve. Hein. On pensait que Balogun allait prendre le relais. Il fait une saison catastrophique. Balogun, il sera encore là la saison prochaine, logiquement, avec peut-être une recrue à venir. Kevin, qu'est-ce que t'en penses?
Non, mais au vu de, comme vient de le dire Ricardo, au vu de tout ce qui s'est passé pour Wissam Ben Yedder sur les derniers mois, il a été performant malgré tout. L'AS Monaco a déjà préparé l'avenir en recrutant l'été dernier Balogun, qui a mis une saison à s'adapter, mais ça reste quand même un gars qui est capable de marquer des buts. On a le retour aussi de
Mbolo.
Donc bon, il y a quand même du monde, et je pense qu'ils auront sûrement la masse salariale nécessaire pour aller chercher un joueur, puisque c'était quand même, je crois, le plus gros salaire du vestiaire.
650 000 euros, je l'ai dit, brut mensuel. Hein.
Ouais.
Il a bien mangé, hein, Wissam, pendant 5 ans.
Ouais.
En tout cas, il a rendu sur le terrain, le garçon. David.
Oui, c'est évident, en fait, que c'est une page qui devait se tourner, ne serait-ce que financièrement. C'est vrai que son affaire, c'est un peu une bombe à retardement. Si au milieu de la saison prochaine, tu apprends malheureusement qu'il y a condamnation, qu'est-ce que tu fais? Tu as gardé un gros salaire, tu as prolongé un gros salaire. Et c'est difficilement gérable. En plus, c'est un club qui est en vente, Monaco. Donc prendre ce risque réputationnel auprès d'un futur acheteur avec un joueur qui a un peu ce panneau au-dessus de la tête, c'est quelque chose de compliqué.
Il y a que des clubs en vente en ce moment.
Non mais vraiment. Il a mandaté Rennes, il a mandaté une groupe.
Tu prends un risque énorme, signer une prime à la signature d'un Ben Yedder avec un salaire qui ne sera pas à 80 000 euros brut.
Et en plus, à mon sens, un des successeurs est tout désigné et libre. Donc donc
alors, voilà, justement, donc, si tu veux, Ricardo, on fait un prêt à Arès avec David Guzman et
absolument,
puis, on y va. Hein. On va essayer de racheter un club aussi. Hein.
Pas de souci.
Bon, en pour qui?
Tu parlais, tu ne mentionnais pas, Georges Mikotadze, bien sûr, hein, on l'a dit il y a deux jours, hein, sur RMC, selon les infos. Donc, c'est une cible concrète, discussion avec le clan du joueur avancée. Metz va lever l'option d'achat auprès de l'AGMSTA Amsterdam qu'il a prêté à hauteur de 13 millions d'euros pour mieux le revendre. Ensuite, il y aura du monde aussi sur Mikotadze. Il n'y aura pas que Monaco. Joueur qui fait en 20 matchs 13 buts, je ne sais plus combien de passes décisives, 3 ou 4 passes décisives. C'est phénoménal en 5 mois depuis son retour en France en janvier. On est tous fans ici. Il faut le voir maintenant à l'étage supérieur. Attention, hein. Pourquoi pas à l'Ajax avec un Farioli, hein. Ils vont lever l'option à Metz, bien sûr. C'est pas un sujet. On en a déjà parlé. D'abord, j'accueille Cédric au 32-16. Salut Cédric.
Bonjour messieurs.
Supporter de l'AS Monaco qui est avec ses écouteurs, je pense, son haut-parleur.
Non, pas du tout. J'ai pas mis justement.
Ah, ben c'est parfait.
Vous m'entendez bien ou pas?
C'est mieux là. Ouais, nickel Cédric.
J'ai mis la main devant le téléphone.
C'est parfait. Alors Cédric, est-ce que tu es surpris? Est-ce que tu penses que Monaco aurait dû, malgré ses déboires judiciaires pour l'instant, garder absolument et prolonger Wissam Ben Yedder?
Bah, honnêtement, moi, je vais déjà respecter la présomption d'innocence. C'est vrai que vous en parlez, vous avez raison d'en parler. Après, il y a toujours une charte d'éthique. S'il devait, entre guillemets, hélas, être accusé de ce qu'il a fait.
Être condamné,
de
toute façon, ouais.
Ouais, les clubs ont les moyens de dire on cesse le contrat parce que ça fait partie des chartes de beaucoup de clubs professionnels. Donc, je dirais rien d'autre par rapport à ça. Maintenant, je trouve que c'est un manque de respect de ne pas le prolonger. Vous parliez de Dembolo, moi j'adore. Balogun, je peux être qu'inquiet parce que l'année prochaine, oui, vous avez parlé d'état supérieur, mais ces joueurs-là n'ont pas fait leurs preuves en Ligue des Champions, contrairement à Ben Yedder qui a déjà fait ses preuves. Et ça reste le meilleur buteur du club. Il aime Monaco et je ne comprends pas qu'on ne le prolonge pas. Je n'arrive pas à comprendre. Au-delà de son salaire, bon, oui, c'est vrai que c'est un gros salaire.
Pourquoi manque de respect?
Ben parce que c'est un manque de respect par rapport à ce qu'il a apporté au club. Monaco, c'est un club, Eric Dimeco en parle souvent, qui est atypique. C'est rare qu'on ait des joueurs qui aiment Monaco. Lui, il est venu parce qu'il aimait Monaco, c'était un rêve d'enfance. Et ça, pour nous, les supporters, c'est important. Donc, je trouve que c'est un manque de respect par rapport au comportement exemplaire qu'il a toujours eu. Même quand il y a eu des périodes où il était remplaçant, des joueurs de son statut auraient pu se plaindre par l'intermédiaire de ses agents, dans la presse. Il a jamais fait de bruit. Honnêtement, moi, citez-moi des joueurs de son calibre qui font pas un scandale quand il reste aussi longtemps remplaçant comme il l'a été. Chaque entraîneur qui l'a mis sur le banc, il est toujours revenu sans la ramener et a prouvé qu'il avait sa place. Donc moi je trouve que c'est un manque de respect par rapport à ce qu'il a apporté à Monaco.
Mais tu veux le garder jusqu'à quand en fait? C'était quoi la date de péremption? Dans ce cas-là, on prolonge 5 ans, on peut lui donner un CDI?
Déjà, c'était possible de le prendre un an, parce que après je sais pas quelle est la volonté du joueur. Peut-être que lui non plus il n'a pas envie, et ça on le sait pas, donc oui. je suppute. Mais par rapport à ce qu'il a fait, et puis la Ligue des Champions à venir, c'est un joueur qui est capable de marquer, qui est capable de garder le ballon, et ce qu'on avait du mal à faire. Et quand il était passé
dans un profil très très singulier en plus,
qui vient du futsal, qui a été découvert à Alfortville, qui vient du futsal, donc après
bien sûr, c'est pour ça. Puis quand vous regardez sa conservation de ballon,
oui.
Voilà, quand je dis manque de respect, mes mots sont peut-être un peu forts, mais voilà.
Attention, Mikotadze est capable dans ce profil-là, hein, Sylvain aussi, d'être aussi seulement bon dans la profondeur, être un point d'ancrage aussi,
exactement.
Très bonne conservation, très fin techniquement.
Je suis d'accord, en Ligue 1, mais Balogun, quand il était à Reims, il était trop fort. Vous avez vu, Arsenal, pas capable de s'imposer. Et là, cette année, on sait qu'il faut un quota de confiance pour un attaquant qu'il n'a pas eu, et ça a été compliqué quand il a raté ses pénaltys, et ça s'est enchaîné dans une spirale négative, ce que Ben Yedder n'a pas connu, et ce qu'il ne connaît pas, malgré... Voilà, des passages à vide, il revient toujours, il rebondit. C'est pour ça qu'il va y avoir la Ligue des Champions. Et je pense que quand tu as un joueur dans ton effectif de ce calibre-là, bah, tu le gardes.
J'entends.
Et même s'il est remplaçant, il ne va rien dire, il ne va pas faire de scandale. Il ne l'a jamais fait.
Non, c'est vrai qu'après, on est d'accord, hein, on est tous unanimes sur le fait que voilà, Ben Yedder, c'est un super joueur. Après, moi, comme je l'ai dit auparavant, c'est un joueur qui prend de l'âge, c'est un joueur qui a un très gros salaire. Après, je pense que Monaco n'a pas forcément de problèmes financiers.
Ouais.
Mais moi, je pense qu'il faut quand même renouveler. Il faut quand même renouveler. Je pense qu'un
Balogun, 5 saisons, c'est un bon cycle.
Après, c'est un bon cycle. Forcément, il faut tenter des choses. Je pense qu'un Balogun a vraiment ces ressources nécessaires pour bien figurer au fond de l'attaque. Et je pense que ceux qui vont travailler pour trouver cet attaquant vraiment, peut-être pas le rare. Et moi, je pense que
il y a plusieurs pistes. Hein. Nos confrères de l'équipe évoquent également des pistes qui mènent à Karim Konaté, 20 ans, Salzbourg, ivoirien, 32 matchs, 22 buts, 8 passes. Issu de la Galaxie Red Bull aussi, que Thiago Spor connaît. Galanik, Vadim Huter connaît aussi. En plus, son agent, c'est Vadim Vassiliev. Donc, t'imagines, il y a des connexions importantes. On parle aussi d'Armando Broja, au Broja international.
Broja, alors lui, ce serait une vraie mauvaise idée. Parce que Broja, lui, c'est quelqu'un de formel.
Chelsea prêté à Fulham, 0 but, 8 matchs.
Prêté à Fulham. Fulham, dès le début, a décidé de ne pas le faire jouer parce qu'il y avait une obligation d'achat automatique en fonction du temps de jeu. Ouais. Il est allé à Southampton, ça a été catastrophique. Et c'est un profil un peu de pivot qui est trop similaire à Mbolo. Dans toutes vos discussions, vous avez aussi oublié l'aspect tactique. C'est-à-dire que Monaco a joué longtemps cette saison avec une seule pointe en 3-4-2-1. Et que dans ces deux derrière, il faut un attaquant qui soit capable d'y jouer. Mais t'as quand même Ben Seghir qui doit exploser. Ouais. T'as Magnès Arliouche qui doit exploser.
T'as Mbolo qui doit revenir.
T'as Minamino qui est revenu. T'as Golovin. Ouais. Donc, en fait, si tu veux, grosso modo, est-ce que t'as besoin en plus d'un joueur qui doit être indiscutable?
Après, Cédric, pour corroborer ce que dit David, c'est que faut penser l'exemple d'un Minamino qui a commencé de manière vraiment exécrable et qui est bien revenu et qui maintenant qui s'est bien imposé. Je pense qu'un Balogun, ça peut être un motif d'espoir. Bah,
Balogun l'année prochaine, il faut que ce soit son année.
Ouais, je suis d'accord.
Si je peux me permettre, après,
un petit peu
plus
de temps.
Je conclue, mais la priorité à Monaco, c'est pas l'attaque non plus. On a une des meilleures attaques du championnat de Ligue 1. C'est que la Ligue 1 depuis 5 ans. Mais on est une des plus mauvaises défenses. On finit deuxième avec 43 buts ou 44 buts encaissés. Et ça fait 4 saisons où on prend plus de 44 buts par saison. Donc la priorité, c'est un vrai 5. Parce qu'on a Caio Henrique, on a Mandelson. Ces postes-là sont presque doublés. Mais dans l'axe central, c'est catastrophique.
Il y a Salisu qui va revenir de blessure, qui a énormément de qualité, qui a été gêné.
Cédric, merci.
Merci Cédric.
On va parler du mercato monégasque, évidemment, cet été. L'idée, c'est de se renforcer avant de retrouver la Ligue des Champions, bien sûr. Restez avec nous, ces générations after. Dans un instant, l'avis de David, qui ne supporte pas ses playoffs, Ligue 1, Ligue 2. Restez avec nous, Génération After sur RMC. Va y avoir un débat, je crois, tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Kevin Diaz, avec David Guzman, avec Ricardo Fati, c'est RMC, c'est Génération After. Les 5 dernières minutes avant de passer la main à Gilbert, Daniel et Stéphane pour l'After jusqu'à minuit, bien sûr. On voulait finir, on finit avec un avis de David sur un sujet d'actualité. Hein. On va vivre très bientôt le barrage d'accession Ligue 1, Ligue 2, Saint-Etienne, FC Metz. Jeudi, match aller, dimanche, match retour à Saint-Symphorien. David, tu n'aimes pas du tout ces playoffs à la française. Jingle, David Guzman.
Il y a deux risques principaux côté Everton, c'est que le
principaux,
que,
mon cher David.
Principaux, même, bah voilà, j'ai le droit au jingle là.
Bien sûr. Mais oui, on a que ça, mon cher David.
Il n'y a pas de souci.
Alors, pourquoi tu n'aimes pas ces playoffs, je précise, à la française?
Mauvaise traduction de l'anglais, tout simplement. On en parlait avec Kevin, mauvaise traduction de l'anglais. Les Anglais, pour monter, les deux premiers montent automatiquement, 3, 4, 5, 6, demi-finale de playoff aller-retour, et finale de playoff à Wembley, sur terrain neutre, pour monter. Le problème des playoffs à la française, c'est qu'on a essayé de faire un mélange entre des playoffs couvriraient un peu la Ligue 2, mais au final, on referme la porte parce que si tu gagnes les playoffs, tu joues quand même le 16e de Ligue 1.
Donc, en aller-retour.
En aller-retour, avec le retour chez le club de Ligue 1.
Ouais.
Donc en fait, c'est complètement hypocrite, c'est un cloisonnement. Imaginez Rodez.
C'est Koh-Lanta. Hein,
Rodez fait la saison de leur existence. 4 jours après la fin de la Ligue 2, ils jouent contre le Paris FC. 3 jours après, ils jouent contre le 3e. Et ensuite, 5 jours après, ils doivent jouer chez eux contre le 16e de Ligue 1. Et ensuite, après, en retour, chez le 16e de Ligue 1.
Pour l'épreuve des poteaux.
C'est un parcours du combattant. Dans ces cas-là, très sincèrement, donnons 2 montées immédiates. Alors certes, historiquement, il y a 2 clubs qui ont réussi à monter via les play-offs. Mais un peu plus de mobilité. Regardez la mobilité dans la pyramide anglaise. Ce qui fait
jamais un 4e de Ligue 2 n'est monté en revanche. Hein.
Jamais. Ce qui fait le sel d'un championnat et de l'attractivité d'une ligue, c'est sa perméabilité, c'est sa mobilité. Et très franchement, de toute façon, ceux qui se sont sauvés, on cloisonne avec les droits télé, on cloisonne avec CVC et maintenant on cloisonne avec le format des compétitions. Et regardez qui s'était sauvé historiquement par les playoffs. Il y a eu Toulouse, il y a eu Dijon et il y a eu Nantes. Il y en a 2 qui sont de toute façon ont fini par descendre et un qui a quand même chaud aux fesses quasiment tous les ans. Donc tu sais, très franchement, est-ce que c'est une méritocratie de sauver le 16e ou à l'époque le 18e de Ligue 1? Moi, je me permets d'en douter.
Kevin.
Non mais ça c'est sûr. Après sur la formule, bon, on a inclus les playoffs, ça donne un petit peu quand même de piment sur la fin, sur les 2-3 derniers mois de Ligue 2. Après le problème, et c'est qu'aujourd'hui, moi vous savez que je suis très bien la pyramide du football français. Regardez les clubs qui sont aujourd'hui en national. c'est des clubs de Ligue 2.
Ah mais l'année prochaine, le national, c'est quelque chose.
Pour certains, c'est des clubs de Ligue 1 anciennement, tu vois, comme l'AS Nancy Lorraine par exemple. Donc aujourd'hui, de toute façon, ils ont beau essayer de cloisonner comme ils veulent. Des clubs qui travaillent bien, ils arriveront toujours à monter. Et les clubs qui travaillent mal, ils arriveront toujours à descendre.
On fait tout pour qu'ils ne montent pas. Ouais, c'est ça.
Bien, ouais, mais peu importe, parce que aujourd'hui, quand tu as, et je parle surtout des clubs qui vont descendre, quand les gars travaillent mal, ils vont toujours finir par descendre. Tu vois, et tu verras que Nantes, si ça continue de travailler comme ça, il y a une fois, ils vont finir par y passer aussi.
Ce que dit David, c'est simple, c'est que Metz attend depuis maintenant quasiment 10 jours d'avoir son adversaire au chaud tranquillement, tu vois, au coin du feu.
Pendant que les autres, ils auront joué.
Malheureusement pour Metz, c'est Saint-Etienne. Tu vois, ça aurait pu être l'éventuel quatrième de Ligue 2 ou le troisième, le Paris FC.
Non, mais de toute façon, moi,
le quatrième ou le cinquième, pardon.
Et on en parlait tout à l'heure pour les droits de télé très rapidement, mais à partir du moment où on fait tout pour favoriser l'élite, c'est-à-dire la Ligue 1, mais que de toute façon les clubs de Ligue 1 ils finiront tous, ceux qui travaillent mal comme Bordeaux, Saint-Etienne, par descendre en Ligue 2. Et c'est quand ils seront en Ligue 2 qu'ils vont se rendre compte.
Mais l'argument premier, c'est qu'il faut favoriser les investisseurs, il faut donner de la sécurité aux investisseurs, il faut surtout pas qu'il y ait d'accident industriel. Mais attendez, les clubs de Ligue 2 n'ont pas besoin d'argent. Saint-Etienne, ils n'avaient pas besoin d'argent. Bordeaux, ils n'ont pas besoin d'argent. Donc forcément, si tu cloisonnes la Ligue 1 et que tu diminues la perspective de gain de revenus, les investisseurs vont beaucoup moins investir en Ligue 2.
Après, la notion de mettre des playoffs, c'est bien en soi pour les clubs de Ligue 2 parce que ça permet d'impliquer davantage d'équipes.
Bien sûr.
Du ventre mou. Mais après, oui.
Mais si c'est pour quasiment rien au bout.
C'est ça, ça peut être frustrant.
Tu fais un playoff pour monter. Moi, je regardais cet après-midi, quand j'ai regardé absolument tous les playoffs parce que j'ai un petit problème avec le football anglais, mais regardez cet après-midi le match sur terrain neutre entre Leeds et Southampton. C'est 85 000 personnes à Wembley. Vous vous rendez compte, un week-end, n'importe quel stade français, où vous avez les playoffs d'accession en Ligue 1, en Ligue 2 et même en National 1. Vous faites ça sur un week-end sur terrain neutre, mais vous déplacez du monde. C'est une date que vous inscrivez dans le calendrier. C'est quand même une date plus attractive que le trophée des champions, qui est en Guinée au Japon.
Ou alors tu fais comme en série B, t'impliques du 3e au 8e, tu fais des sortes de quarts de finale, demi-finale, finale avec des vainqueurs. Et en effet, la notion de terrain neutre, ça peut être aussi attractif et ça peut.
C'est sûr. On a mal copié les Anglais.
C'est pas comme si on avait un stade qui sert à rien en plus. C'est pas comme si on avait le stade de France où il y a pas de résidents. Donc même si ça ferait peut-être un grand stade,
tu peux le faire ailleurs. Du Gauguin à Sedan, où un stade moderne en fait, qui n'a plus d'équipe professionnelle.
Sedan qui est monté en Régional 2 d'ailleurs. Je salue nos amis sedanais.
Très très belle.
Racheté par Koulibaly aussi. Club racheté par Koulibaly.
Tout à fait.
Ouais, Calido.
Qui a pris des parts. Ouais, exactement. C'est terminé pour Génération After. Dans un instant, l'After avec Gilbert, Daniel et Stéphane. Tiens, Roland Garros, comment ça se passe? Est-ce que ça va toujours aussi bien pour Coco Moutet, mon cher Eric?
Non, faut reconnaître que Nicolas Jarry a profité d'une petite pause fraîcheur pour retrouver ses esprits. Il mène 3 jeux à 1.
Magnifique.
Dans le 3e set.
Allez, magnifique.
Faut reconnaître, bravo à Nicolas Jarry, ça fait sourire Corentin Moutet. Non, c'est
quoi de fini ce match? Évidemment,
ouais,
on va se
régaler.
C'est Zen Station en fait, c'est ce match-là.
Absolument.
C'est pas cliffhanger.
Oui, non, mais le central est plein. Bah, sauf qu'avec un ciel, bien sûr, ils sont en train de manger.
C'est là qu'il faut être.
Le central est plein.
C'est là qu'il faut être. Eric, tu veux nous accompagner ce soir?
Terence Mann est tout près de la qualif.
Quel Roland Garros.
6-3, 6-4, 4-2.
C'est le beau Roland Garros cette année, mon cher Eric. On aura 5 Français en quart de finale, tu vas voir.
Oui.
Dans un instant, l'after sur Richard Gasquet, c'est la sienne cette année. Oui. Bonne soirée à Roland, Eric. La suite dans l'after avec Gilbert, Daniel et Stéphane. Merci de rester sur RMC jusqu'à minuit. À très vite.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.